Salut les amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Nous sommes samedi 26 août pour l'épisode numéro 11 de Road to 10 Million. Je suis Théo Lyon, toujours, hein. C'est encore moi. Je suis le fondateur de Koudak. Koudak qui est un nom ambivalent qui fait référence à deux choses. La première, c'est mon agence Ads, où j'aide les e-commerçants et les startups sur la partie media buying, sur le media buying, pardon, le créa. Le créa, oui, c'est exactement ça. Donc. Le media buying, la créa et le tracking, notre triple expertise. Mais Koudak, c'est aussi le nom de l'écosystème d'agences spécialisées que je suis en train de créer, dont fait partie par exemple Linker, qui est une agence de marque personnelle et qui a passé son road to 1 million l'année dernière. Donc cet écosystème, il a aussi vocation à s'agrandir avec d'autres jeunes fondateurs talentueux, à l'image de Mathieu Pimor, qui d'ailleurs est. Je ne sais même pas si on peut toujours dire jeune fondateur talentueux, ça fait quand même un an et demi qu'il nique des mères, donc je pense qu'on peut dire bien installé maintenant. Et donc voilà, on choisit des petits fondateurs qui ont des expertises, qui font moins de 15 000 euros par mois de chiffre d'affaires, entre 15 et 20 000, et on les aide à scaler leur boîte en s'associant avec eux et en leur apportant plein de choses qu'on a déjà construites, comme par exemple les clients, la visibilité, les process et le département admin. Bref, donc la date de naissance de Koudak, c'est le 1er avril 2020, quand j'avais 22 ans. La spécificité, c'est qu'on a atteint 100 000 euros de chiffre d'affaires mensuel en 12 mois, après la création de la boîte, et 200 000 en 19 mois. Ce qui avait rarement été fait, ce qui a d'ailleurs toujours rarement été fait pour une boîte de service dans le marketing digital, qui plus est sans levée de fonds. Donc tout ce joyeux monde aujourd'hui, ça fait à peu près une cinquantaine de personnes qui sont toutes en full remote, et notre CA mensuel record pour l'instant, c'est 352 000 euros. Donc l'étape suivante, c'est évidemment de l'emmener à 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est de là que tire son, le, de là que, pardon, le podcast tire son nom. Donc j'ai pour objectif de le faire avant fin 2024. Voilà, et donc dans ce podcast, j'essaie de vous apprendre comment atteindre le top 1% dans ce que vous faites. Parce que pour grossir plus vite que les autres, il faut s'y prendre différemment des autres. Et donc c'est toujours ce que j'ai essayé de faire depuis le démarrage et que j'essaie toujours de faire, avec plus ou moins de succès, vous allez le voir. Et donc dans ce petit format, je fais un petit point quand j'ai le temps, puisque c'est très défocus pour moi de faire ça. C'est-à-dire que je n'en tire absolument aucun ROI direct sur faire grossir mon agence. Du moins, pas sur le temps que ça me prend beaucoup trop de temps enregistrer. En 2 heures de mon temps, donc l'écriture plus l'enregistrement, je pense que voilà, je pourrais faire d'autres trucs. Enfin, je suis sûr que je pourrais faire d'autres trucs bien plus héroïstes, mais j'aime quand même beaucoup passer ce petit moment avec vous, même si je suis actuellement tout seul sur mon rooftop. Voilà, j'ai choisi le bon moment parce qu'il est 19h18, normalement le soleil devrait se coucher sur la fin du podcast et ça va faire un paysage assez joli, donc j'espère qu'il inspirera de belles idées. Vous pouvez aller voir sur Instagram, d'ailleurs j'ai pris une photo du setup dans lequel je suis pendant que j'enregistre. Normalement la story sera encore up si vous écoutez ça soit samedi, soit dimanche 27 août. Où est-ce que j'en étais? Voilà ce que je voulais dire. En fait, j'ai un petit peu réfléchi à quel angle je voulais donner à ce podcast, parce que maintenant il y a eu 10 épisodes, 11 si on compte le zéro de Grosse Salope que j'avais numéroté au début. Je fais une référence aux épisodes précédents. À l'épisode précédent où j'expliquais pourquoi c'est une grosse connerie de faire un épisode zéro et ce que ça dit sur les gens qui le font. Eh bien, je pense que c'est de vous apprendre la compétence qu'est la croissance. C'est une discipline qui à la fois se renouvelle tous les ans. Ou alors, disons, tous les. Je pense que c'est même d'ailleurs plus que tous les ans. Donc, il y a toujours des nouvelles choses qui sortent sur comment faire grossir des boîtes, mais derrière, en fait, il y a toujours les mêmes principes qui sont appliqués de façon différente. Et donc, le but, ce que j'essaie de faire dans ma vie entrepreneuriale, et donc dans ce podcast par extension, c'est de les identifier, ces principes-là qui traversent les époques, vous les partagez. Et donc, ça, c'est le but. De Road to 10 Million pour ensuite vous puissiez atteindre le top 1% de whatever ce que vous faites. Évidemment, si vous êtes. Une agence ou une boîte de service, ce sera plus directement applicable ce que je vous raconte, mais je suis quand même beaucoup plus intéressé par les insights qui sont cross-industrie et cross-business, donc c'est-à-dire des choses que vous pouvez récupérer et réappliquer quel que soit le secteur dans lequel vous évoluez. Et j'espère que ce sera intéressant. Voilà. Et donc, toute cette aventure Road to 10 Million, c'est aussi évidemment quelque chose que vous le savez certainement, parce que sur cette audience qui écoute le podcast, les quelques 15 000 personnes qui ont écouté les premiers épisodes, vous venez pour en grande partie de mes autres réseaux sociaux, donc je la documente sur YouTube, LinkedIn, Twitter, Instagram et TikTok. Donc voilà, vous pouvez taper, j'étais en train de réfléchir à comment est-ce que je vous communique, comment me trouver, vous tapez Théo Lyon, normalement j'ai passé la masse critique qui permet de me trouver, il n'y en a pas des milliards, des gens qui s'appellent Théo Lyon en plus, de base, donc j'avais pas beaucoup de concurrence, donc vous me trouverez, je n'ai pas de nom farfelu, Théo Le Lyon parfois sur certaines plateformes, vous me trouverez, normalement j'ai une petite vérif à peu près partout. pour pas que vous tombiez dans les fakes. Bref, merci beaucoup d'être avec moi et bienvenue dans l'épisode 11 d'Euro Tout est Million. J'espère que ce petit cadre posé vous a permis de retrouver de la clarté et de comprendre un petit peu ce que j'essaie de vous raconter dans les 10 premiers épisodes si jamais vous étiez déjà là. Et si jamais vous êtes nouveau, bienvenue. Vous comprenez dans quoi vous êtes embarqué à vos risques et périls. Donc précédemment dans Euro Tout est Million, qu'est-ce qui s'est passé ? Je rentrais de mon dernier week-end de vacances où j'ai pas fait d'épisode la semaine dernière. J'ai d'ailleurs pas mal réfléchi à s'il fallait que j'aie une récurrence que je m'impose sur ce podcast. Je vais essayer d'en faire le plus possible, mais malheureusement, comme c'est pas quelque chose qui a beaucoup de ROI pour moi, c'est le premier truc qui saute quand mon emploi du temps déraille un peu ou que j'ai des choses plus importantes à faire, comme par exemple beaucoup de sport, on va reparler. Donc, je le ferai quand j'ai le temps. Ça sort comme ça sort. Donc, je rentrais de mon dernier week-end de vacances. Je vous avais raconté mes petites péripéties à Saint-Tropez, mais qui étaient tout de même d'excellentes vacances. Voilà, j'ai passé un très bon moment et je réfléchissais un peu dessus. Voilà, bref, on va dire que ça existe. Je vous avais aussi parlé un petit peu de cet état de flou mental dans lequel j'étais il y a 2 semaines et surtout comment s'en sortir. Moi, ça avait été beaucoup par le sport, le sommeil et plein de choses que je détaille un peu plus dans l'épisode précédent. Je vous parlais de la sortie d'Enlève tes chaussures, qui était l'épisode en famille, qui est désormais sorti, qui... C'est très marrant parce que au global, il vous a plu, ce truc-là. J'ai reçu beaucoup de messages positifs, mais j'ai aussi reçu beaucoup de messages négatifs, principalement en commentaire. Bon, il n'y en a pas beaucoup, c'est 3 ou 4, hein, mais c'est juste plus que d'habitude. Et je suis très content de ça parce que j'ai toujours eu une petite intuition qui était que mon contenu est un peu lisse, de manière générale, sur YouTube. Alors que, bon, dans la vie de tous les jours, je ne suis pas forcément avec si peu de relief que ce qui peut-être ressort dans mes contenus. Donc, je me suis dit qu'il y avait une partie de ma personnalité que je n'exprimais pas. Donc, je suis content que ce podcast ait un petit peu énervé des gens. Il y a eu quelques commentaires, disons, d'amélioration et de commentaires un peu haineux, d'ailleurs. C'était une des premières fois. Je les ai mis dans un petit tableau, d'ailleurs, qui s'appelle mon Inspiration Board, un truc que j'ai volé à David Goggins, qui, lorsqu'il est démotivé, il regarde. En fait, il a un petit tableau dans lequel il met tous les commentaires de haters qui rêvent, qui se pètent la gueule, et ça le remotive. Donc, moi, je me suis fait un petit tableau aussi là-dessus. Et donc, je suis content de cet épisode parce que moi, je l'aime beaucoup et je sais qu'on l'a fait une période où. Voilà, tout le monde était fatigué un petit peu. Enfin, moi, personnellement, j'étais assez fatigué. Je sortais une période un peu difficile d'un point de vue perso. Donc, je suis quand même content d'avoir fait cet épisode. Ce n'était pas le plus brillant, je pense, d'un point de vue réflexion. Mais ce qui est important, c'est de délivrer ce que vous avez dit que vous allez faire. Et donc, dernière chose, je vous fais une petite update sur la partie sport. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez qu'en plus, je m'étais engagé dans un petit challenge qui s'appelle Dexa 10, que je vais renommer Sécher pour scaler, dans lequel je me fais un petit challenge sportif. Où j'ai pour but d'atteindre, de me faire flasher à 10% de body fat au Dexa scan, qui est l'une des méthodes les plus précises pour mesurer le body fat. Donc pour ça, je vous fais des petites updates toutes les semaines. Je suis mon programme et le but, c'est de le faire avant mon anniversaire, le 4 octobre. Voilà, sachant que j'ai commencé à 16,5, j'ai quand même fait un Dexa scan de début. Donc, je sais pas, j'ai une partie de façon après sur les actus perso, donc je vais avoir l'occasion de raconter ma vie encore un peu. Je ne vais pas vous faire l'update tout de suite, je le ferai peut-être dans la partie. Ouais, je referai dans la partie avec tu perso, tranquille, on a le temps. Donc, au menu de ce podcast, j'ai aussi un petit peu changé en même temps que l'angle de ce podcast et l'introduction, la structure. J'ai envie de vous parler de 4 choses. Le début et la fin, c'est les mêmes. Donc, je vais commencer par vous parler de l'actualité de la semaine pour Koudak et moi-même. Donc, l'actu perso, l'actu pro. Puis, j'ai 2 nouvelles sections que j'ai un peu renommées, mais qui seront dans le contenu assez proche de ce que vous avez déjà vu. Vous y retrouverez si jamais vous aimiez ça. La première section s'appelle « Remettre les pendules à l'heure ». Ce sera aussi potentiellement le titre de ce podcast, je pense. C'est, en gros, vous savez, je note beaucoup de choses dans mon Notion, enfin bref, dans mon petit journal, qui sont en fait pas des punchlines, mais des phrases très courtes, qui sont des petites observations, soit sur la croissance, soit sur les gens, et je me dis, faudra que j'en parle dans un contenu à un moment. C'est pas des choses qui font l'objet de dissertations. Et donc, vous savez que la partie avant, la partie numéro 2, c'était la disserte. Donc, j'essaie vraiment de vous construire un peu une argumentation et je me mettais un peu comme en mode prépa quand on passait d'école. Je prenais 30 minutes et j'essaie de vous gratter sur un papier tout ce que je voulais dire sur un sujet. Mais il y a toute une partie des idées que je peux pas exploiter, du coup, que je suis obligé de vous balancer à la volée et que j'ai un petit peu fait dans les instants précédents. Mais là, vraiment, le but, c'est de vous délivrer quelques petites nuggets, comme on dit, sur le continent américain. De valeurs, voilà, de petits trucs que j'ai observés. Et parce que là, il y a pas mal de choses qui me saoulent sur lesquelles j'ai envie de remettre les pendules à l'heure. En fait, c'est pour ça, beaucoup de, notamment tiré de LinkedIn, pour pas que vous tombiez dans le piège de LinkedIn, globalement, mais je vous spoile pas. Donc je vais remettre les pendules à l'heure avec quelques petites propositions que je vais détailler pendant 3-4 minutes chacune. Il n'y a pas forcément besoin de s'étendre beaucoup plus. On verra ce que ça donne. Vous me direz ce que vous en pensez, mais ça me permet d'avoir des trucs un peu à la volée. Et de tous les cas, il y a une troisième partie qui va rester un petit peu plus détaillée. C'est le performance check. Donc le but, vous savez, c'est de vous faire atteindre le top 1% de vos domaines. Donc mon objectif, c'est de vous partager une notion intéressante qui va vous permettre d'être meilleur que vos concurrents parce qu'eux, ils ne sont jamais posé la question dans ce sens-là. Je vais toujours essayer de vous présenter ça sous forme de notions fondamentales. C'est-à-dire que je ne vais pas vous expliquer comment faire une campagne de Facebook qui t'apporte un ROI de temps. Je vais plutôt te parler d'un principe de croissance comme cette semaine, ça va être un leverage, un levier, une force de levier qui a été oubliée par Naval Ravikant, que vous connaissez peut-être. Je pense qu'elle a été oubliée, du moins j'ai développé une petite argumentation autour de ça. Je vais vous la partager. Et j'espère que ça sera utile. J'ai vraiment envie que de... En fait, il n'y avait pas vraiment de mission dans ce podcast, mais vu que je le fais et qu'il n'y a aucun ROI, autant qu'il y en ait un pour vous. Il n'y en a aucun ROI pour moi, mais il faut qu'il y en ait un pour vous, sinon c'est chiant. Ce n'est pas juste pour m'exprimer. C'est un peu chelou d'apprécier juste parler dans son micro et que les gens n'en tirent rien. Donc, c'est vraiment dans cette partie que j'ai envie de vous aider. Et la dernière partie, pour le coup, elle est toujours commune. Je réponds à vos questions. D'ailleurs, pour me les poser, c'est sur theo.le.lyon, souvent la semaine avant le podcast, souvent la veille. Là, pour le coup, ça avait été plus tôt. Je vous mets un petit sondage qui vous permet de poser vos questions et j'ai l'occasion de répondre à pas mal d'entre elles. Donc, si vous posez une question, vous êtes assez sûr. Enfin, voilà, j'ai une chance sur deux. Non, peut-être plutôt une chance sur trois, une chance sur quatre que j'y réponde. Ce qui, en vrai, sont des bonnes cotes. On passe tout de suite à la partie actu en commençant par l'actu perso. Combien de temps ça fait qu'on tourne? 11 minutes. Oui, je pense que potentiellement ce podcast sera un petit peu plus long que les autres. Bon, après, j'en ai pas eu la semaine dernière, donc faut que je rattrape. Actu perso, bref. Je vous disais qu'il y a un truc qui a pas mal marqué mes deux dernières semaines et qui, pour le coup, est notable dans le sens où c'est différent des semaines précédentes et de tous les mois d'avant. C'est que j'ai totalement retrouvé une discipline qui, j'ai l'impression, a beaucoup contribué à ma performance professionnelle, sinon je ne vous en parlerai pas. J'ai beaucoup retrouvé une discipline via le sport. Alors, c'est entre autres, j'avais commencé à me remettre sérieusement à la salle de sport, même si j'y suis toujours allé. Je me suis remis bien pour ce challenge là, qui est du coup engagé depuis maintenant une trentaine de jours, 25 jours. Et donc je vais à la salle le matin et franchement, si vous avez l'occasion, je ne sais pas si vous avez déjà testé le sport le matin, moi j'allais à la salle toujours après. Il y a un effet de, comment ça s'appelle, d'endorphine, comme quand tu as fini d'aller courir, il est 8h du mat, enfin 8h30, j'ai fait ma séance d'une heure et demie, et là je me pose à mon bureau, je peux commencer à taffer, mais j'ai déjà fait la partie la plus dure. Donc quand tu commences par un truc assez dur, qu'il devient de moins en moins à chaque fois, hein, parce qu'on ne veut pas dire que c'est que de la souffrance, moi j'aime beaucoup passer mon temps à la salle, j'ai l'impression de revivre, d'avoir un pic de productivité qui est bien supérieur la matinée, donc je fais vraiment des matinées d'enculé, et je suis plus à l'aise l'après-midi, je me couche un peu plus tôt, et donc j'ai un peu retrouvé de la discipline personnelle, que je suis allé gagner en fait progressivement, donc j'ai commencé par aller à la salle tout court, puis après j'ai commencé à m'imposer un truc un peu plus dur, un truc que j'avais arrêté de faire, c'est que j'ai commencé à reprendre un peu des douches froides sur la fin, je ne vais pas dire des douches froides, puis se mettre le petit jet à la fin qui te garde sharp et qui est le premier truc dur que tu as fait dans ta journée et qui rend tout ceux d'après un peu plus facile. Puis après, j'ai délocalisé la salle le matin, ce qui a rendu le truc un peu plus dur, parce qu'il faut mettre le réveil. Puis j'ai repris le MMA, les amis. Vous savez que ça fait longtemps que je fais des sports de combat, j'ai été très très peu assidu. Honnêtement, quand je suis retourné à la salle la semaine dernière, ça faisait 5 mois que j'avais pas fait un entraînement de boxe MMA. Donc j'ai rajouté ça progressivement, c'est sur un mois et demi, hein, tout ce que je vous décris. Et dernier challenge en date, j'ai rajouté du footing, du running. Évidemment, comme vous savez, je suis un enculé qui ne peut pas pratiquer un sport pour le loisir. Toujours un aspect compétition. Je me suis inscrit au semi-marathon de Boulogne. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'avais le projet au démarrage de le courir sans préparation, juste avec les entraînements d'MMA, qui sont un peu l'équivalent du fractionné, on va dire. Je suis quand même allé recourir pour me checker, pour me tester... voir si c'était possible que j'arrive réalistiquement à terminer 21 km sans prépa. Je pense que je vais quand même un petit peu m'entraîner parce que sinon je risque de passer un sale quart d'heure. Et donc mais je vais m'entraîner principalement. Moi, j'aime bien quand il y a des échéances, un peu des compétitions de préparation. J'en ai pris deux avant. J'ai le 10 km de Paris-Centre qui est en octobre et là, très bientôt, il y a le Paris-Versailles. C'est dans 3 semaines. Et donc moi, vous savez, je suis Versaillais de nature, de souche, de tout. Enfin non, je ne suis pas Versaillais de touche, je suis né à Paris. Mais en tout cas, Versaillais de cœur, c'est plutôt ça comme ça qu'il faut le dire. Eh bien, c'est une course symbolique que je voyais passer tous les ans devant ma maison. Donc, je suis très content de pouvoir la faire pour la première fois. Bref, donc, je me suis rendu compte, pourquoi est-ce que je vous parle de ce truc-là? C'est parce que c'est très rapide et c'est latent que de tomber dans le confort. Et ce confort, personnel dans lequel vous pouvez tomber. Donc vous commencez à, vous avez plus trop la salle, vous mettez un petit Netflix à la place, vous vous réveillez, vous regardez Instagram Reels pendant 30 minutes, etc. Tous ces petits trucs. Ne croyez pas une seule seconde que ça va se cantonner au domaine perso. Bon, je fais ça, mais je vais être super productif la journée. On est des machines de performance holistique, et donc notre cerveau, il est pas con. Il voit que si on n'est pas foutu d'avoir la discipline de pas regarder Instagram au réveil, ou de pas regarder TikTok, ou n'importe quelle autre chose qui est en gros de la gratification immédiate quand tu ouvres les yeux, eh bien, il va comprendre derrière que il vous donnerait la force de faire votre travail. Que finalement, il est poussé dans l'autre direction. Voilà, donc j'ai retrouvé de la discipline. Je vous conseille de faire pareil d'une façon ou d'une autre, c'est-à-dire d'avoir quelque chose extra professionnel qui travaille un petit peu votre muscle, de surpasser des difficultés, de faire des choses qui nécessitent de la discipline pendant une longue période de temps. Pas forcément très difficile sur l'instant T, mais à tenir longtemps. C'est une compétence qui est très très rare chez les gens, de savoir s'accrocher longtemps sur des choses difficiles et qui sont un peu taxantes. Et donc voilà. C'est utile pour le pro. Je passe au sujet suivant. Je pense que vous avez compris. La semaine dernière, j'ai passé un petit bout aussi de la semaine avec Mathieu Pimor, ce jeune niçois originaire de Normandie, de Wassel pour ceux qui connaissent, qui est venu deux jours à la maison pour un rendez-vous qu'on devait faire le soir, mais aussi pour lui faire des rendez-vous avec ses clients. Et donc, forcément, il est venu dormir dans mon petit appartement boulonnais. Je suis en train de réfléchir vraiment à si on dit les boulonnais pour les gens qui habitent à Boulogne-Billancourt. Je crois que c'est ça. On va dire que c'est ça. Et donc, c'est toujours des super moments que je passe avec ce jeune Mathieu. Et ça me confirme à chaque fois qu'il est possible d'être pote et d'être associé dans une entreprise. Parce qu'en gros, le principal truc sur lequel les gens s'écharpent, pour moi, c'est de l'ego mal placé. Parce qu'en gros, ce qui est compliqué quand tu bosses ensemble dans une boîte, c'est qu'il y a une exigence réciproque de performance. Donc, si demain, je fais de la merde, Mathieu va me dire que je fais de la merde. C'est mon associé. Et inversement. Donc, ce truc-là, c'est pas quelque chose que tu as envers un pote. T'as pas une exigence de performance amicale avec un pote. T'as d'autres types d'exigences que tu peux avoir, la loyauté, le fait de passer des bons moments et tout. Mais ce truc de performance est très très spécifique. Et parfois, il y a des gens qui sont pas capables d'entendre ces choses-là. Et donc, je pense qu'il est possible d'avoir une relation professionnelle et amicale qui fonctionne bien, si et seulement si on met pas l'ego au mauvais endroit. Donc, on est prêt à entendre ces choses-là, qu'on sait que c'est réciproque. Et voilà. Et donc après, voilà, il y a peut-être une autre nuance encore sur les relations qui sont plutôt hiérarchiques, où il faut savoir différencier le fait que dans la vie professionnelle, quelqu'un peut te dire « fais quelque chose » et avoir un statut d'égal à égal quand vous êtes en amitié. Ce qui est un peu plus compliqué à faire exister, mais ça marche, pour le coup. Ça marche aussi, mais j'en parlerai plus tard. Donc bref, j'aime beaucoup que pouvoir, dans la mesure du possible, j'essaie de voir beaucoup mes associés dans des contextes hors professionnel. C'est très bénéfique, ça rend l'aventure plus agréable. Voilà. La semaine dernière, j'ai aussi fait un déjeuner dont je voulais vous parler avec les fondateurs de Slick, Antoine et Adrien, qui sont un petit peu mes crush agences, pour employer un mot de fragile. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que je me reconnais beaucoup dans eux. J'ai l'impression de voir les mêmes profils. Ils sont très jeunes aussi. Slick, c'est une agence TikTok, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Ils font de la création de contenu, des campagnes d'influence et globalement, ils aident les marques à s'adresser à la Gen Z. J'ai compris, c'est ce que j'ai compris de leur positionnement qui va avoir tendance à s'élargir. Et donc, j'ai beaucoup de respect. Enfin, ils ont toujours gardé beaucoup de respect pour moi, malgré le fait que pendant quasiment un an, on a été concurrents avec eux. Parce que nous, on avait 9-16e en interne avant de le fermer. Et j'ai toujours trouvé ça. On n'a jamais eu de tension comme on pourrait avoir avec d'autres concurrents. Donc, j'ai trouvé ça très respectable. Donc, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Je vous invite à aller voir, je crois que j'avais déjà parlé d'eux d'ailleurs dans un podcast. C'est une agence qui a une belle croissance et qui fait des beaux chiffres. Donc si vous aimez les belles réussites, pour que je vous dise ça, vous savez où sont mes standards de croissance. Donc allez-y. Voilà, donc je vous conseille vraiment de manière générale de rencontrer vos concurrents et de vous comporter avec eux comme de façon très droite et respectueuse et de voir ce qu'ils vous rendent face à ça. Bon, après, il y a une autre catégorie de concurrents qui sont ceux qui te font des grands sourires derrière et qui veulent te mettre des quenelles. Ça c'est pour moi, c'est vraiment le top du top, fils de pute. Il y en a quelques-uns dans nos concurrents agences médias qui ont fait ça, avec qui j'ai déjeuné. On dit des grands sourires, le marché il est gigantesque, c'est super. Et derrière, parce qu'en fait tout se sait, le marché est tout petit, et surtout quand en plus moi, comme je suis créateur de contenu sur le marketing digital, je commence à avoir un peu de réseau sur ce truc-là. Ils savent pas qu'en fait quand ils disent quelque chose à quelqu'un, le truc remonte très très vite, et donc tu sais ce que les gens disent sur toi. Très très rapidement. Donc voilà, c'est toujours intéressant de voir comment se comportent les concurrents. Je trouve que d'ailleurs, c'est une très bonne mesure de la qualité d'un homme et slash d'une femme, parce que c'est des valeurs que tu entretiens avec toi-même. Comment est-ce que toi, tu te comportes? Dans tous les cas, tu vas rien gagner. Il n'y a rien à gagner à être gentil avec ton concurrent. Mais certains choisissent de le faire. Donc moi, je choisis de le faire. Pas tout le monde en réciproque, mais en tout cas, Slick font partie de ces gens que je trouve assez droits sur ce sujet. Voilà. Et dernier sujet personnel, vous savez que je suis un... On fait beaucoup chez Kodak d'OKR, donc ça veut dire Objective Key Results. Ce sont des... une façon de fixer les objectifs en deux parties. Donc le haut objectif qui est un petit peu la vision inspirationnelle. Donc ça peut être de devenir le leader de tel secteur ou prendre tant de pourcents de parts de marché. Ensuite, il y a les KR dedans, donc des Key Results. Ce sont des choses mesurables qui vont par exemple être lancer un nouveau produit d'ici février, avant février, envoyer 200 messages de prospection. C'est des choses objectives que tu peux mesurer et sur lesquelles il n'y aura pas d'ambiguïté à la fin du trimestre de est-ce que tu les as atteintes ou pas. Et donc, ça permet de différencier la direction de la tactique au jour le jour dont tu peux mesurer l'efficacité. Et donc, je vous dis ça parce que ça marche aussi sur le personnel. Et je vous conseille à tous d'avoir un peu plus ou moins une idée, pas forcément avec la méthode OKR, de qu'est-ce que vous voulez accomplir. Moi, l'échelle que j'aime bien, c'est le trimestre, parce que c'est celle que j'ai avec Kodak. Donc, tous les trimestres, je fais des bilans, donc j'en profite en même temps pour faire un bilan personnel. Et j'ai des OKR personnels dont je voulais vous parler. Et comme j'en parle en public, entre guillemets, parce qu'on est juste entre nous, eh bien, ça m'engage encore plus. Je me suis mis 3 OKR. Je vais vous parler que des deux premiers, parce que le troisième est vraiment très, enfin, beaucoup sur Kodak, qui a beaucoup de data confidentielle. Mais j'ai beaucoup d'objectifs sportifs ce trimestre. Donc, par exemple, je vous dis à quoi ça ressemble. Mon OKR numéro 1, c'est atteindre moins de 12% de body fat à moins de 82 kilos. C'est un OKR qui est du coup qui va se terminer à la fin du Q3, donc ça veut dire fin septembre. Et donc pour ça, j'ai 4 KR à l'intérieur. Donc ça veut dire si je coche les 4, je pense que j'aurai atteint 12% de body fat. J'ai d'abord des OKR de performance sportive. Donc, j'ai envie de soulever 100 kilos x 5 au développé couché. Je suis à 100 kilos x 2. J'ai KR numéro 2 qui est soulever 65 kg x 3 au développé militaire, donc c'est un autre exercice. J'ai KR numéro 3 qui est faire 39 séances à la salle, l'équivalent de 3 ou 4 par semaine, je crois. J'en suis à 25. Et le KR numéro 4 qui est cramer 33 000 calories. C'est ça que je traque d'ailleurs dans les stories d'Exadis, là, qui était le nom précédent du challenge. C'est ça que je traque et j'ai envie d'atteindre d'ici le 4 octobre. Et normalement, ça devrait m'amener à un physique, enfin disons à une condition physique sèche. Et performante. Voilà. Parce que j'ai pas non plus envie de perte de force. Et le second OKR, il est aussi sportif, c'est courir le Paris-Versailles en moins de 1h24. Ça fait 5-15 au kilomètre. C'est dans 3 semaines. Donc honnêtement, il est très ambitieux celui-là. Et donc pour m'entraîner dedans, j'ai 3 KR. Faire 10 séances de MMA. J'en ai fait 2 aujourd'hui sur le trimestre. C'est pas beaucoup. 2 de la semaine dernière. Courir 18 fois. J'ai couru 4 fois. Et avoir 0 heure de dette de sommeil sur une application que j'utilise qui s'appelle Rise, qui est synchronisée avec mon Apple Watch. Donc je pense que ce sont les 3 choses qui auront le plus de leverage. Voilà, donc c'est un petit exemple. Pourquoi est-ce que c'est... Je vous conseille vraiment de, si vous faites cet exercice-là, enfin, pourquoi est-ce qu'il est stylé? C'est pas tant parce que tu vas mesurer toutes les semaines, voir où t'en es de tes objectifs. C'est surtout parce que c'est un exercice de focus. Et quoi qu'on en dise, et les gens ne le comprennent pas, mais nos cerveaux, ils peuvent pas se concentrer sur plusieurs choses à la fois. C'est pas possible. Et avoir des OKR, ça te force à sélectionner parmi tous les trucs que tu pourrais faire. Je peux avoir plein de choses ici, hein, des objectifs de chiffre d'affaires, des objectifs sociaux, rencontrer des gens... en fait, on peut vraiment partir dans tous les sens et ça me force à me dire qu'est-ce que je vais accomplir, je vais me focus sur quoi pendant ce trimestre. Évidemment, je ne fais pas que du sport pendant tout mon trimestre, mais tout le reste, je choisis volontairement, je ne vais pas mesurer, je ne vais pas chercher à progresser. Les seuls trucs sur lesquels je vais me demander à moi-même de me juger, ce sera ces deux choses-là et la troisième qui est secrète. Donc, je vous recommande d'essayer ces petits exercices et de vous rendre compte que parfois, vous essayez, si vous n'avancez pas, c'est peut-être parce que vous essayez de partir dans trop de directions à la fois. C'est un bon exercice aussi de se rendre compte parfois que ce qu'on attend de nous-mêmes, parce que inconsciemment on a tous des attentes envers nous-mêmes, ça peut être surtout vraiment tout. Il y a des gens qui essaient de se reprendre en main physiquement, des gens qui essaient de monter une boîte, de changer de taf, et ils se rendent compte qu'en fait ils jugent, d'autres choses qui les rendent malheureuses qui sont pas liées à ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par exemple ils mettent tous leurs efforts pour essayer de changer de taf, mais ils ont le somme de pas perdre de poids. Ils disent « Ah putain, je me reprends pas en main » et ils se flagellent comme ça. Eh bien, faire des OKR personnels comme ça, ça vous force à être votre meilleur ami. Vous êtes votre ami juste sur l'objectif que vous avez choisi de faire et ensuite vous passez à la suite d'après. Et en fait, vous allez beaucoup plus vite comme ça. C'est paradoxal. Et moins on travaille sur un nombre grand de choses, mieux c'est. C'est pas une très belle phrase, pas un très beau français, mais vous avez compris. Passons à l'actu pro. J'ai failli rechercher sur Google avant de commencer ce podcast comment inclure un jingle en live. Est-ce qu'il y a des applis qui permettent de le faire? Je suis sûr que c'est possible. J'utilise Riverside pour enregistrer. Je pense pas que ce soit possible dessus, mais ça doit exister. Mais j'aimerais vraiment beaucoup avoir des jingles. Je trouve que ça donne un vrai dynamisme. J'aime beaucoup dans le podcast du Raptor, quand il y a des petits jingles, je trouve que ça reste dans la tête. Après, quand tu entends la musique dans un autre, tout autre contexte, tu fais « Ah putain, c'est la musique du podcast ». J'aimerais bien que ça vous fasse ça sur Tout est mignon. Donc, l'actu pro. Sur quoi j'ai travaillé ces dernières semaines? Eh bien, j'ai d'abord travaillé sur notre système de roadmap. J'ai l'impression d'en avoir déjà parlé dans ce podcast, mais on a fait quand même des avancées, là, surtout la dernière semaine, monumentales, notamment en comprenant que le process de vente... Donc, les roadmaps, c'est quoi? C'est, nous, il y a le R1, où on capte les besoins, et le R2, qui est en fait une restitution d'audit, que nous, on appelle roadmap, parce qu'on projette plus les gens dans le futur qu'on analyse ce qui s'est passé dans... Ah bon, on va pas leur dire, ah, t'as mal fait tel truc, fais ça. On leur dit plutôt, ta marque pourrait devenir ça, et voici... Tout l'historique de ce qu'on a disponible et qui nous permet de savoir si on va l'atteindre ou pas. Donc, ce qu'on a compris simplement, c'est que le vendeur, et je trouve cette métaphore très très simple et que ça permet à tout le monde de comprendre ce qu'il doit faire dans la boîte, le vendeur est un docteur. Et donc, il y a une erreur que font les gens, c'est que tu vois, quand tu vas chez le docteur, avant de te filer l'ordonnance, il fait un diagnostic. Si tu arrives chez un docteur, tu fais j'ai mal au genou, là, est-ce que vous pouvez regarder? Il fait prends Doliprane. Il vous dit, attends, non, mais t'as pas fait fais-moi bouger le genou et tout, là, t'as pas regardé ce que j'ai. Et du coup, tu vas avoir beaucoup moins de conviction et tu vas beaucoup moins valider la solution qu'il va te donner. Parce qu'il a pas fait le diagnostic. Alors que ça se trouve, c'est la bonne solution, hein, de prendre un doliprane. En fait, t'as rien, t'as juste un peu mal et tu casses les couilles. Et donc, faut pas oublier, quand tu fais de la vente, notamment quand tu fais ces roadmaps, d'avoir une grosse partie sur qu'est-ce que t'as compris du problème du client. Et lui montrer que t'as compris son problème. Parce que derrière, quand tu as montré 99% de la vente, c'est montrer au client que tu as compris son problème. Et derrière, en fait, ce que tu lui proposes comme solution, ce que tu lui proposes comme pricing, c'est dérisoire. Ça peut juste être des occasions de se gourer plutôt que des occasions de briller. Là où tu dois briller, c'est sur la compréhension du problème. Et donc, pour ça, je vous donne deux astuces. Si vous voulez vendre à quelqu'un, parlez-lui de ses concurrents et parlez-lui de ses modèles. Donc, dites-lui, aujourd'hui, tu es là. Les mecs que tu veux battre, ils sont là, là, là et là. Ils font ça bien, toi tu fais ça bien par rapport à eux, etc. Et donc voici ce que tu devrais faire. Et ensuite, t'aimes les modèles, tu vois les marques auxquelles tu veux ressembler, donc celles qui sont 10 fois plus grosses que toi, elles ont fait tel truc. Pourquoi tu le fais pas? Tel truc, tel truc, tel truc, et ça fait écho à ton problème de telle façon. Et donc pour nous, c'est typiquement souvent des canaux d'acquisition. On regarde beaucoup les marques américaines pour faire nos audits et on leur dit, écoutez, bah, regardez tel concurrent US, il est 10 fois plus gros que vous. Vous voyez qu'il a ce canal-là que vous n'avez pas dans votre mix d'acquisition. Ça vaudrait peut-être le coup de l'essayer. Voici comment on peut l'essayer pour vous à bas prix ou je ne sais rien. Enfin, selon les trucs. Voilà. Et donc, ça fait une grosse différence plutôt que de balancer directement une solution, une propale. Parce qu'en fait, les gens arrivent souvent avec une propale dans le call. En mode, voici ce qu'on veut faire pour votre marque. Ce n'est pas juste ça. Seconde chose, j'ai un peu réorganisé ma to-do aujourd'hui. Je voulais vous expliquer pourquoi. Vous savez que je suis très organisé sur Notion avec des colonnes to-do semaine, to-do mois, to-do journée. Et avec je mets ça en rapport toujours avec les OKR de boîte pour être sûr que je progresse dessus, mais il me manquait une échelle entre les deux, c'est l'échelle de la semaine, et plutôt de la semaine d'un point de vue objectif que d'un point de vue tâche. Ça veut dire, chaque semaine maintenant, je vous conseille de rajouter ça à tous dans vos to-do, essayez de vous dire quelle est la tâche qui peut faire que ma semaine est un succès. Parce que ce que je faisais moi quand je fais ma to-do semaine, c'est que je note, je priorise plein de tâches, j'ai je sais pas, 20-25 heures de tâches qui sont par défaut quand la semaine commence dans ma to-do. Et ensuite, j'essaie d'en faire le plus possible. Et je regarde, ok, bon, bah, à la fin, souvent, je sais pas, j'ai fait que 18 heures des 25 heures de tâches que je devais faire. Bon, il me reste pour la semaine d'après. Mais finalement, il y a toujours une Pareto à appliquer là-dedans. Et il y a 20% du coup, ça veut dire de ces heures-là, que si tu les fais pas, franchement, t'es une merde. Et tu sais que tu vas te mettre dans la merde. Tu vas te prendre du retard, vraiment. Il y a plein d'autres trucs. En fait, il faut à chaque fois essayer d'évaluer. Vous prenez chacun des tickets, des trucs que vous avez à faire dans votre to-do et vous dites, qu'est-ce qui se passe? Pardon. Les aléas du direct, au moins c'est pas une crampe. La dernière fois que j'ai tourné à cet endroit là sur mon rooftop, j'ai eu une crampe des enfers, je sais plus quel épisode c'était horrible. Et donc merde, revenons-en à nos moutons sur la semaine. Je vous disais oui, prenez chacun de vos tickets et dites-vous qu'est-ce qui se passe si jamais je le fais pas cette semaine. À chaque fois, il n'y a jamais des hypothèses qui vont vous enchanter, hein. Vous allez vous dire j'ai vraiment un besoin de tout faire, mais vous allez pouvoir noter lesquelles sont moins pires entre guillemets, parce qu'il y en a toujours. Et lesquelles sont les pires? Et donc, celles qui ont les pires conséquences quand elles ne sont pas faites, c'est vos 3 étoiles. Donc, moi, dans ma to-do, c'est ça. Les 3 étoiles, j'en ai une par jour. Donc, j'ai 5 tâches, je fais ça. Et ça vous permet aussi d'avoir ce sentiment d'accomplissement à la fin de la semaine. Parce que même quand tu as travaillé, tu as fait 18 heures, tu t'es fait un plan ambitieux à 25 heures de tâches et tu as réussi à en délivrer que 18, parce que du coup, entre temps, il y a les réunions, les trucs imprévus et tout. Eh bien, tu as toujours un petit sentiment d'inachevé. et que tu n'as plus quand tu as fait toutes tes tâches importantes. Je vous conseille de faire ça. Je vous parle de quoi ? Est-ce que je vous en parle de ça ? Je vous tease un petit peu, ça fait longtemps que je vous en parle. On est vraiment à deux doigts de pouvoir communiquer sur les nouvelles agences qu'on va intégrer à l'écosystème Kudak. Il y en a deux, et une petite troisième qui s'est rajoutée dans le lot, dont je ne vais pas vous parler cette fois-ci, parce que si vous avez suivi les épisodes précédents, normalement vous savez ce que c'est. Je ne vais pas le redire. Pour les gens qui n'ont écouté que cet épisode, vous devrez aller vous taper tous les autres. Voilà, et mettre 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast en même temps. Sinon, il va vous arriver des bricoles. Je rigole, hein. Évidemment, je ne menace personne de sanctions si vous mettez que 4 étoiles, par exemple. Par contre, si vous mettez rien, c'est sûr, il y a une sanction. Je vais vous retrouver. J'ai des potes qui font du OSINT. J'ai vraiment des potes qui font du OSINT et c'est flippant, d'ailleurs. J'ai un pote, ce sujet, c'est totalement hors sujet, mais je vous en parle parce que c'est marrant. J'ai un pote qui a réussi à comprendre, sans que je lui dise, que je m'étais séparé de mon ex. Il savait rien, je lui avais rien dit. J'avais rien actualisé, j'avais rien changé en contenu, mon profil Instagram n'était pas différent, parce que souvent les gens ils voient au bout de quelques semaines, le mec a capté. Et donc c'est flippant. Donc faites attention à vos données personnelles. Heureusement que c'est un pote, il se reconnaîtra s'il écoute ce podcast. Je t'embrasse. Et dernière chose dans l'actu, et après on passe au pendule à l'heure, et je vous fais un petit topo aussi sur les contenus qu'on a sortis. J'ai une petite réalisation sur le travail d'un CEO, parce que je reprends du coup... Il y a un petit avant-après du coup Q3 pour Kodak où j'ai un peu réalisé que les standards de performance s'étaient un petit peu abaissés à toutes les échelles de la boîte et que j'essaie de les remonter. Je me suis rendu compte que le travail d'un CEO en fait à toutes les étapes de la création d'une boîte, c'est souvent d'être le garant des standards. Et comment est-ce que tu gardes les standards ? Tu montes ce que tu tolères. Je vais en reparler dans les pendules à l'heure juste après. Et donc en gros, c'est juste définir ce que tu attends et qu'est-ce qui n'est pas tolérable dans ta boîte. La règle des retards chez nous, c'est un exemple. Allez, il y a ça comme standard. Maintenant, en fait, à mesure que ta boîte elle avance, il faut que les standards ils s'élèvent. Sinon, malheureusement, la qualité de ton service ne progresse pas. Et je vais vraiment empiéter sur le point d'après. J'ai pas trop envie. J'ai envie de vous le garder, vous le présenter bien dans les pendules à l'heure. Je vous le garde pour après. Mais en gros, simplement, on juge plus quelqu'un dans le pire truc qu'il fait que dans le meilleur truc qu'il fait. Parce que vous pouvez avoir 3-4 clients sur lesquels vous faites des trucs dingues et les autres sur lesquels vous n'avez pas fait progresser le truc, le niveau de votre agence, c'est le niveau des clients qui ont le moins bon service. Hein. C'est toujours nivelé par le bas, ce truc-là. Et donc, c'est pour ça que c'est très important qu'en tant que CEO, votre travail, c'est que le niveau bas soit le plus haut possible. Et donc, vous devez gérer les standards de tout le monde, c'est gérer les standards des gens. Donc, vous prenez votre top management, vos associés, etc. et vous essayez de définir qu'est-ce que serait des résultats honorables. Et ensuite, votre travail, ça c'est la première partie, la seconde partie, sinon ils vont vous détester si vous leur dites juste que c'est des merdes, c'est de leur faire un plan pour les aider à atteindre ces standards. Donc, essayez de comprendre c'est quoi l'unique chose, pour rester très focus, qui les sépare de cet état que vous êtes en train de leur vendre. Et donc, pour plein de gens, et souvent c'est des trucs humains en fait, nous ça fait souvent écho à la culture, c'est un peu de manque d'ownership sur tel et tel sujet, sur lequel tu n'es pas très focus, tu ne fais pas d'update, etc. Tel ou tel point où tu arrives un petit peu en retard, tu ne donnes pas trop de réponses. Et c'est des petits trucs. Il faut faire un plan précis avec des points objectifs de choses qui sont passées. Et vous faites un plan. Donc à la fois les standards et le plan. Et la troisième partie surtout, c'est d'être exemplaire personnel. Enfin, vous-même quoi. C'est très très dur d'exiger des autres des choses que vous ne faites pas vous-même. Et donc c'est aussi pour ça que je fais très attention à tenir ma routine de sport et à tous ces trucs, de commencer tôt, bien travailler, tenir mes promesses et mes engagements. Je le fais dans la mesure du possible, enfin le plus possible. Mais évidemment, c'est très très dur d'être parfait là-dessus. Et ça, c'est ça qui inspire les gens. Parce qu'avec ces trois points-là, vous avez à la fois vous montrez ce que vous attendez, vous montrez que vous-même, vous êtes capable de vous tenir à ces standards et ensuite vous expliquez aux gens comment atteindre ces standards-là. Et c'est ça qui inspire. Quand tu vois quelqu'un qui s'entraîne dur, quand tu vois Mbappé à l'entraînement là qui est là avant toi et qui est là après toi, t'as deux choix. Soit tu dis oh, nique sa mère, Mbappé, moi ça sert à rien de venir, moi je vais aller dans une équipe, je vais aller jouer à Roubaix en national, je m'en branle. Donc là tu dégages, c'est-à-dire tu choisis de ne pas meet les standards. Ou alors ça te dit ok putain Mbappé il chauffe, vas-y il m'inspire, lui il veut faire gagner l'équipe, vas-y t'es quoi, je vais me battre pour lui parce que lui il veut faire gagner l'équipe. Et c'est ça qu'il faut créer comme effet. C'est la fin de l'actu pro, je vous fais un dernier topo sur les contenus qui sont sortis, donc je vous ai dit ETC en famille, et je vous annonce que cette semaine, donc mercredi, ça sera en août encore, On est le 26 août, donc mercredi, ça fait 27, 28, 29, 30. Mercredi 30 août sortira Road to 10 Million, épisode 22 sur YouTube. Voilà. Et on passe à la rubrique Les pendules à l'heure. Jingle inexistant. À la place d'un jingle, je vais vous faire Théo qui boit de l'eau et qui n'arrive pas à ouvrir sa bouteille à une main. Ah, yes! C'est bon! Ah. Le soleil commence à se coucher, commence à y avoir des vraies couleurs là. J'aimerais bien vous prendre des petites photos. Je vais en prendre une petite. Je vais vous en prendre une petite maintenant, comme ça vous pourrez aller la voir sur Instagram, à théo.le.lyon. Hop là! Je sors mon téléphone parce que vraiment, c'est assez beau là ce que je suis en train de voir. J'ai pas envie que vous loupiez ça. Donc, c'est bon. Alors, les pendules à l'heure. Pourquoi j'ai appelé cette section comme ça? C'est parce que j'ai passé pas mal de temps sur LinkedIn la semaine dernière, pour être honnête. J'ai recommencé à publier beaucoup de contenu sur lequel j'ai passé beaucoup de temps, que du contenu e-commerce. La semaine dernière, j'ai fait 4 posts, beau fou comme on dit, bottom funnel. Expertise à balle, je voulais intéresser ma cible, enfin mes clients potentiels, et pas faire du gnangnang LinkedIn. Mais putain, mais du coup, forcément, comme je suis un peu con, je clique parfois sur fil d'actualité et je lis les putains d'étrons qui s'enchaînent dans le fil d'actualité. C'est merde, sans fond, mal écrite, avec toujours les mêmes accroches. Je suis nanana et pourtant je nanana. Regardez-nous, on fait la semaine de 3 heures. Ça veut dire que nos employés travaillent que 3 heures et tout le reste, ils sont en vacances. Comme ça, ils peuvent aller chercher leurs enfants à l'école et faire du padel. Et ainsi, on a une piscine à boules. Et putain, je n'en peux plus. Je n'en peux plus de ça parce que on sait tous ce que c'est. Au fond, c'est du putain de signalement de vertu. Le signalement de vertu, c'est quoi? C'est les gens qui t'églaboussent avec leur morale. Ils te disent, regarde-moi comment je suis vertueux. Et toi, regarde, grosse merde. Comment ça, tu veux que les gens y travaillent? Mais t'es tellement pas 2023. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus de LinkedIn. J'en ai marre. J'en ai marre des piscines à boules. J'en ai marre des semaines de 4 jours. Et j'en ai marre de tous les gens qui jugent les gens qui font pas ça. Donc je me mets dans cette catégorie des gens qui critiquent les critiqueurs. Parce que, et voilà, j'ai pas mal de raisons de penser ça. Et donc c'est un petit peu le mot d'ordre, disons, de toutes les petites messes que je vais vous donner. J'en ai 8. Dans cette partie, les pendules à l'heure. Et la première, c'est sur la work-life balance. Oh là là. Alors ça... Bon, j'ai un avis assez tranché sur la work-life balance. C'est que le but de la vie, c'est justement de trouver une situation dans laquelle tu n'as pas de balance. Tu n'as pas d'équilibre. Je crois que mon casque s'est coupé, j'ai plus de son. Si, c'est bon. Ah, j'ai plus de retour. Et en fait, tous ces gens qui disent « Ouais, il faut qu'il y ait une work-life balance, je fais une semaine de 4 jours, comme ça les gens ils peuvent avoir leur vie de famille et leur vie pro. » Ils te disent « Mais tout le monde devrait faire comme ça. » Franchement, nous, on est une boîte libérée et en 2023, c'est comme ça que devrait fonctionner l'entrepreneuriat et le monde corporate. Et ces gens-là, tu as envie de leur dire, mais heureusement que les pompiers, ils n'ont pas ton putain de mindset, en fait. Heureusement qu'ils ne travaillent pas juste la semaine. Que quand ta baraque, elle va cramer un samedi soir, tu ne vas pas dire, eh, on en a fait... nous, on fait la semaine de... Non, on n'éteint pas les feux le week-end. Donc, tu vas cramer comme une grosse merde et ça t'apprendra. Mais ces gens-là, en fait, je veux dire, ce n'est pas possible. Regardez autour de vous, arrêtez d'éclabousser les gens avec votre vertu. C'est pas possible. En fait, si tu choisis d'avoir ce truc-là, de rejoindre une boîte qui fait ça ou d'avoir une boîte qui prône ce genre de système, grand bien t'en fasse. Mais viens pas casser les couilles parce que heureusement que tout le monde fait pas comme ça. Et donc moi, je vous souhaite à tous, dans vos vies, de trouver un truc que vous n'aurez pas envie d'arrêter à 17h. Et c'est pas forcément du travail, on dit work-life balance, mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être sport-life balance, ça peut être family-life balance, n'importe quoi. Et je comprends pas. On dit, ouais, 9h à 17h, je vais me faire fouetter pour un truc que j'aime pas. Et après, là, je vais vivre ma vraie vie. Mais attends, mais en fait, t'es con. Pourquoi tu t'essaies pas de faire en sorte que les trucs que tu fais le soir, ça devienne toute ta vie si c'est si stylé que ça? Donc, ça veut dire que t'es un hypocrite toute la journée? Qu'est-ce que c'est? Et je te dis pas que tout le monde doit pas devenir entrepreneur. Et c'est ça, en fait. Pour moi, ce que j'essaie de créer comme atmosphère avec les CDI, que j'ai chez nous, parce que forcément, c'est toujours une position, tu sais, où t'as le patron qui est entrepreneur qui dit, ouais, l'entrepreneuriat, c'est génial, c'est de la merde. Mais ça, les gens qui disent ça aussi, déjà, j'ai envie de leur mettre des tartes. En fait, t'as envie de leur dire, mais enfin, vous êtes cons, quoi, genre, t'emploies des gens, frérot. Comment tu peux défendre un truc comme ça? C'est, essaie de trouver un taf qui te permet, via les bénéfices que t'en tires dans le taf et que le taf te permet d'avoir, je pense notamment au remote hein, quand je dis ça, essaie de trouver un truc qui rend ton lifestyle stylé. Et tu te dis, écoute, ah, je vais pouvoir avoir envie de travailler quand je veux. C'est-à-dire que si je veux arrêter le... Je sais que je dois donner de la performance, mais je peux l'organiser comme je veux. Donc c'est pour ça qu'on fait du remote. Donc si j'ai besoin de faire une pause de 2 heures entre 14h et 16h et que je veux la rattraper plus tard et que je sais que je pourrais la rattraper, je le fais. Et donc ça, pour moi, c'est une façon qu'a un taf de rendre moins pénible les conditions, disons, enfin les emplois qui nécessitent peu de work-life balance. Mais en tout cas, ça, c'est un choix que tu dois faire dans tous les cas. Et vous, de toute façon, tu peux tracer une droite assez simple entre les gens qui choisissent d'avoir la plus faible work-life balance, bah, ils ont souvent les carrières les plus abouties, et heureusement qu'ils existent, parce que sinon, c'est eux qui donnent du travail aux autres souvent. Et après, tu peux descendre l'échelle jusqu'à les gens qui veulent, voilà, qui font leur. Enfin, les fonctionnaires, quoi. Je suis désolé s'il y a des fonctionnaires. Non, mais il n'y a pas de fonctionnaires qui écoutent. Il y a des fonctionnaires qui écouteront toutes les millions. Non, bref, c'est juste les gens quoi, qui... Hop, 9h, 16h, retour, hop, au bar. Et ça dégage. Mais franchement, ça me... Voilà. C'est... En fait, je n'ai pas envie de chier sur un état ou l'autre. J'ai envie de chier sur les gens qui chient sur l'un des états. Voilà. Et donc, j'ai envie de dire... Parce que le problème, c'est en fait de tous ces gens qui te prônent les semaines de 4 jours et tout, là. C'est qu'ils te disent que derrière, non, mais on va pouvoir performer comme les gens qui travaillent 5 jours. Mais en fait, tu t'es arrêté en quelle classe à l'école ? T'as pas fait le programme de maths ? Tu sais pas que 4 est pas égal à 5 ? Et tu vas me dire quoi ? Tu vas me dire que sur 4 jours, avec le repos que tu prends, tu es plus productif ? Mais tu te fous de ma gueule, en fait. Et ces gens, parce que c'est, moi, ce qui m'énerve par-dessus tout, c'est ce sentiment un peu qui s'appelle en anglais « d'entitlement ». Ça veut dire... Je n'ai pas mis en place les mêmes efforts que tout le monde, mais je mérite les mêmes résultats. Et ça, ça me pète les burnes. Je trouve ça infernal. Et parce que même s'il y a des boîtes qui performent bien, parce que là, les gens vont me dire « Ouais, mais regarde, telle boîte, ils ont une piscine à boules et ils font 10 millions de CA. » En fait, ils ne réussissent pas parce qu'ils ont une piscine à boules, enculé. Et ils réussissent malgré le fait qu'ils aient une piscine à boules, mais ce n'est pas parce qu'ils ont une piscine à boules qu'ils font du chiffre d'affaires. Mais, enfin... tous ces boîtes, c'est la Startup Nation, c'est un petit peu le signalement de vertu qui vient avec LinkedIn. Donc je vais pas m'étendre sur ce sujet, vous avez compris, work-life balance, moi j'aime pas ça. Enfin j'aime pas les gens qui l'érigent en valeur absolue et qui doit être respecté par tout le monde. Heureusement qu'il y a des gens qui ont pas de work-life balance. Et ben voilà, parce que vous serez bien content que vous serez fait cambrioler de pouvoir appeler les flics. Bisous, on passe à la seconde chose. Donc je vous parlais, c'est celui-là que j'ai un petit peu commencé à spoiler dans la partie précédente. On a combien de temps là ? J'ai l'impression que ça fait longtemps, 42 minutes. Ouais, voilà, il va durer une heure et demie hein, celui-là, une heure et demie ou deux heures. C'est que pour moi, j'ai noté « tu es ce que tu tolères ». Donc remettons un petit peu les pendules à l'heure. Sur LinkedIn, on voit souvent des gens qui vous disent « mon tarif, je vaux 500 euros de l'heure ». Parce qu'ils ont facturé une fois 500 euros de l'heure. Et en fait, ces petits bâtards, ce qu'ils ne disent pas, c'est que la veille, ils ont aussi facturé une presta de 3 jours à 600 balles. Ça fait 200 euros la journée. Il y a 8 heures dans une journée. Je vous laisse faire les calculs. Et il y avait James Clear, dans son bouquin Atomic Habits, qui dit, j'ai modifié un mot, parce que ça va bien, mais c'est à peu près la même idée, « You don't rise to the level of your goals, you fall back to the level of your standards. » Et normalement, il dit « systems » à la place de « standards », mais c'est la même idée. En fait, tu n'es pas ce que si tu dois définir quelqu'un, tu prends pas le soir où il se sape en tenue de soirée, full maquillé, etc. Ça, c'est pas lui. Lui, ce qu'il est, c'est tous les lundis matins quand il se lève. En fait, un jour régulier pour lui, c'est quoi ? Et finalement, c'est exactement la même notion que quand je vous dis tu es ce que tu tolères, finalement, tu es ce que tu acceptes. Et donc, le point, c'est pas de juger les gens qui ont des standards différents. Il y a des gens pour lesquels c'est très fine de bouffer 4 fois McDo par semaine, de pas faire de sport. Et ces gens-là, tu les juges pas. Le seul moment où tu peux les juger, j'en ai parlé juste avant, c'est quand ils te disent « je veux bouffer 4 fois McDo par semaine et je veux courir le 100 mètres en 10 secondes ». Là, alerte fils de pute. Alerte entitlement, comme on dit. En fait, ce qui différencie les gens, c'est pas leur meilleur jour, c'est leur pire. Et donc, la question, c'est pas « how expensive you are », c'est « how cheap you are ». Qu'est-ce que tu acceptes de toi-même ? Combien est-ce qu'il vaut tel freelance ? C'est pas ce qu'il a facturé au mieux, c'est ce qu'il a chaque jour accepté d'être payé. Et c'est ça la vraie valeur qu'il attribue à lui-même. Et donc finalement, c'est un petit peu sur la notion de standard dont je vous parlais dans les actus à sur Kodak. C'est à vous de décider ces trucs-là. Qu'est-ce que vous acceptez de vous-même et de mettre en place derrière une somme d'habitude, un plan, un système qui va vous permettre de ne jamais descendre en dessous de ces standards. Et progressivement, vous allez relever le plancher de la piscine et jusqu'à ce que ça monte le plus haut possible. Et finalement, les meilleures boîtes, ce sont les boîtes qui tolèrent le moins de choses mauvaises. Voilà pour cette pendule, remettons-la à l'heure. Donc arrêtez de faire les enculés là, avec vos LinkedIn, mes burnes. Là. Ça me fatigue. Alors, troisième chose, je voulais parler de ce qu'est une leveling behaviors. Est-ce que vous savez ce que c'est? Et en fait, quand j'écris ça, je me dis, c'est tellement une notion à laquelle je réfléchis souvent que j'en ai peut-être déjà parlé dans un précédent épisode d'Euro Tout est Million, mais il faut rappeler les choses. C'est la répétition qui apporte les résultats. Donc, une leveling behavior, c'est une attitude qui révèle ton niveau. Leveling behavior, même, ça veut plutôt dire comportement, mais c'est la même chose. Donc, par exemple, porter une Rolex ou un t-shirt Balenciaga, avoir une grosse caisse, pas forcément la grosse caisse, mais disons un t-shirt avec un gros logo. Ça dit aux personnes pauvres que t'es plus riche qu'eux. Donc c'est, les personnes pauvres pensent que t'es riche, mais ces mêmes signaux qui disent aux pauvres que t'es riche, ils disent aux vrais riches qu'en fait t'es pas riche. Et donc c'est une leveling behavior. Ça veut dire que la façon dont tu t'habilles révèle où est-ce que tu te situes. Et donc c'est une notion qui vient aussi beaucoup du poker. Et une leveling behavior, par exemple, c'est aussi les gens qui se vantent. Quand tu te vantes, ça impressionne les gens qui sont impressionnables, qui sont crédules, tu vois, le mec qui gaze un peu pour impressionner une meuf, se vanter pourquoi est-ce que ça ne marche pas, mais en fait ça marche, c'est-à-dire que ça marche sur des femmes crédules, et sur, pas que sur des femmes crédules, sur des, tu vois qu'un entrepreneur, il se vante auprès d'un autre entrepreneur, ça marche sur un entrepreneur noob, sur lequel l'effet prend. Mais un entrepreneur aguerri, il fait « Ouais, t'es mignon, tu vois, ok, bah, tu te vantes, mais tu sais très bien que les gens qui délivrent le plus dans ce monde, ils ouvrent pas leur gueule. Ils sont pas sur LinkedIn avec des piscines à boules. » Ouais, et donc voilà. Et donc en fait, pourquoi est-ce que je pense à ça? C'est parce que ça reboucle avec ce signalement de vertu sur LinkedIn. Le signalement de vertu sur LinkedIn, c'est une leveling behavior. Tous les gens que tu impressionnes avec ta putain de piscine à boules, c'est pas les gens que t'as vraiment envie d'impressionner. C'est les gens qui connaissent rien. Ce n'est pas les gens que tu veux attirer. Et tous ces gens-là, ils t'admirent, mais tous les vrais gens importants, les gens smart, etc., ils te prennent pour un tocard, ils te prennent pour un con. Et sauf qu'ils n'ont pas le droit de le dire sur LinkedIn. Parce que sur LinkedIn, ils veulent pas passer pour des idiots et ils ont totalement raison. Tu vas pas aller te dire, t'es un fils de pute, fais bosser les gens. Tu vas t'attirer plus de haine que tu ne vas recevoir de résultats positifs. Ça sert à rien de faire ça. Mais ils le pensent très fort. Et donc après, quand tu les rencontres, ils savent direct, ils te mettent dans la case tocard. C'est pour ça que tous ces influenceurs, franchement, il y a des influenceurs sur LinkedIn qui ont des centaines de milliers d'abonnés, ils sont respectés par personne. Et c'est la même chose sur YouTube, c'est la même chose sur Instagram. Ce qui est dur, c'est pas d'être connu, c'est d'être respecté et respectable surtout. Pour être respecté, il faut être respectable. Et ça commence par se respecter soi-même, avoir des standards pour soi-même. Parce que les gens ne peuvent pas avoir des standards pour toi qui sont plus hauts que ceux que tu t'imposes à toi-même. Je ne sais pas si vous avez compris ce truc-là. Et c'est aussi pour ça que les gens qui n'ont pas confiance en eux, le manque de confiance en soi, ça se propage. En fait, quand tu as... Finalement, qu'est-ce qui se passe quand... Et on est tous passés par des périodes comme ça. Hein, j'en parle comme si moi, j'étais full confiance. Mais ce qui se passe quand tu parles à quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, c'est que tu te dis, bon, écoute, cette personne-là... A priori, il a plus d'informations que moi j'en ai sur lui-même. Il se connaît mieux que moi je le connais. Et cette personne-là, avec tout ce qu'il a comme information sur lui-même, il n'a pas confiance en lui. Pourquoi moi, je devrais le croire? Et c'est ça qui se passe. Et donc c'est ça tout le problème en fait, de cette merde, des leveling behavior. C'est que... ne vous tirez pas une balle dans le pied, ne vous laissez pas impressionner par des gens. Vivez les choses pour vous-même. C'est bien plus stylé d'être respectable que d'essayer de faire le mec qui se la raconte sur LinkedIn. Voilà. Troisième chose. Ensuite, remettons les pendules à l'heure sur Paris, cette zone géographique. Oui, ma boîte est en province. Les gens sont très heureux. Voilà, nous avons déménagé les locaux à Quimper. Et je peux vous dire qu'on peut rivaliser avec des boîtes parisiennes. Comment te dire de fermer ta gueule? C'est la même chose que ce que je vous disais avant. Tu n'as pas payé le prix. Et tu nous prends pour des cons aussi. Les choses se passent à Paris. Et ton petit blabla violon LinkedIn qui va sûrement récolter des milliers de likes n'y changera rien. C'est l'équivalent de dire « Non mais... en vrai, moi, je m'entraîne que contre des équipes de nationales. Mais t'inquiète que je peux aussi gagner la Champions League. En vrai, les trucs se passent à Paris. Et quoi que t'en dises, mais moi, je suis à Boulogne. Les potes, je suis à Boulogne et je me sens loin. J'ai l'impression de rater des trucs. Je suis à Boulogne. Boulogne, je ne suis pas un Parisien. Je ne peux pas dire un Parisien que j'habite à Paris. C'est pas là où les choses se passent. Mais c'est comme dire que c'est l'équivalent en fait d'un mec par exemple qui habite à Paris et qui dit non mais Paris c'est comme la Silicon Valley. Et finalement je peux tout faire depuis Paris. Hein, j'ai pas besoin d'aller dans la vallée. Hein. Ça c'est une dinguerie. Encore une fois, tu réussiras pas parce que t'es pas dans la vallée. Enfin, tu réussiras bien que tu ne sois pas dans la vallée. Et c'est la même chose quand tu pars. En fait, il faut savoir. Tu veux partir avoir un mode de vie plus sympa, aller vivre dans des villes de ouf. Il y a plein de villes de province entre guillemets. Je sais que les provinciaux détestent quand on dit que c'est des provinciaux. Vous préférez qu'on vous appelle comment? Les campagnards? Bref, non, quand tu vas, écoute, c'est très simple. Quand tu sors de région parisienne, tu vas choper un cadre de vie qui est bien meilleur. Mais écoute, tous les gens qui sont restés et qui payent 2000 balles leur 50 mètres carrés, là, et bien encore heureux qu'ils ont un avantage professionnel. Regarde ce qu'ils s'infligent. Mais c'est normal, c'est parce que tout se passe à Paris. Quand on te donne un rendez-vous, tu rencontres un random, il donne rendez-vous où? Au putain de Hoxton. Dans le putain de sentier, parce que tout le monde est au même endroit, il y a putain de guêpe qui est en train de se poser sur mon pied là. Hop, 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 hop. C'est mes chaussettes jaunes. C'est bon, elle est partie. C'est bien, ça m'a fait une petite pause. Ouais, donc voilà, bref. Arrêtez de faire genre que la province est comme Paris, c'est super. Vous allez pouvoir certes faire des allers-retours à Paris, mais vous allez vous taper 2 heures de train à chaque fois. Donc vous réussirez malgré le fait que vous ne soyez pas en région parisienne. Mais faites pas genre que c'est un avantage. Faites pas genre. Vous ne dupez personne. Et quoi qu'on dise, voilà avec LinkedIn. Les gens savent. Voilà. Cinquième pendule à remettre à l'heure. Oh, j'ai vu une super citation sur Instagram qui était dans un reel, je ne sais même plus qui la disait. C'est « We train the body so it doesn't disobey the mind. » Donc, nous entraînons notre corps pour ne pas qu'il désobéisse à notre esprit. Et alors ça, c'est inconfortable pour pas mal de gens. Ça plaît à pas grand monde, mais en vrai, je peux juger le niveau de discipline d'une personne et la discipline, on sait très bien que c'est quelque chose qui est très 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 important dans une aventure professionnelle, qu'elle soit montée par toi ou pas d'ailleurs, dans ton travail, je peux juger la discipline d'une personne au respect qu'il se donne à lui-même et à sa santé. Et donc ça fait chier les gens. Ça fait chier les gens, mais c'est encore la même fois la même chose. Bien sûr qu'il y a des cas de gens qui réussissent et qui sont pas en très bonne santé, qui se respectent pas. Et qui font, voilà, qui bouffent comme de la merde, qui font pas de sport, qui font rien, qui s'entraînent pas et qui vont crever plutôt que les autres. Ok. Mais ils réussissent malgré ça, encore une fois. C'est-à-dire, c'est un avantage qu'ils n'ont pas. Et donc, forcément, c'est statistiquement moins probable. C'est-à-dire, ils mettent pas les chances de leur côté. Et donc, ça fait chier les gens, mais malheureusement, il y a quand même une hiérarchie. Il y a une hiérarchie entre les gens qui prennent soin de leur santé, les gens qui prennent pas soin. C'est le truc le plus précieux du monde. Et tu vois, quand une personne ne respecte pas sa santé, en fait, c'est comme une personne qui s'étale du caca sur son corps. En fait, voilà, cette métaphore est quand même assez douteuse et je peux pas la tirer très loin, en fait. Hein. En gros, c'est quelqu'un qui se respecte pas ouvertement. Et vous croyez pas que je me sens supérieur en disant ces trucs-là parce que je me suis étalé beaucoup de caca sur le corps. Vous pouvez me croire. J'ai des périodes, mais des trucs, des enfers, du Uber Eats tous les jours. De catastrophes. Mais à un moment, il ne faut pas se mentir. Il faut essayer de se rationaliser, de se dire, ouais, tranquille, mais non, mais regarde, je peux réussir, j'arrive à travailler. T'inquiète. T'inquiète, double whooper, ça va aller. Non, en gros, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Va gagner ce que tu peux gagner en discipline sur ton sport. Prends soin de ta santé. Et ça n'aura, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça n'aura aucun impact négatif sur ton aventure professionnelle, et ça en aura même plus. Il y a de fortes chances que ce soit positif. Donc remettons cette pendule à l'heure aussi. Sixième pendule à raccorder, c'est que la compétition, c'est bien. J'ai l'impression que sur LinkedIn, on a diabolisé le fait de se comparer. Et il y a un peu un genre de bien-pensance, de oui, mais en fait, voilà, depuis que les gens ont 3 ans, on leur met des notes à l'école, ils sont toujours habitués à se comparer, c'est très dur pour les gens qui perdent. Voilà, qui sont au fond de classe, à qui on dit qu'ils sont nuls, etc. Alors oui, je suis totalement d'accord. Et sur ce sujet-là, pour le coup, il faudrait que je le potasse un petit peu avant de pouvoir vous en faire un exposé. Mais malheureusement, la compétition, c'est aussi ce qui fait que les gens deviennent bons. Et tu te rends compte quand tu montes une boîte et qu'il n'y a pas de concurrent. Quel est ton benchmark? Qu'est-ce que tu essayes de battre? En fait, c'est comme faire du shadow en boxe. et faire du sparring. Tu fais du shadow, c'est super, et en fait, finalement, tu t'en tiens au, à l'intensité que tu mets dans ton entraînement. Et tandis que quand tu fais du sparring, t'es obligé de te régler au minimum sur l'intensité du mec en face, sinon tu te fais casser la gueule. Et c'est à ça que ça sert. Comme on dit, iron sharpens iron. Et que c'est excellent accent. Vous remarquez, quand je parle en anglais, je préfère prendre un accent d'un français qui parle anglais, plutôt que d'essayer de faire l'enculé prendre un accent anglais. Mais vous, en vrai, j'ai quand même un bon niveau d'anglais, j'y étais prof d'anglais. Et il fut un temps. En vrai, je me justifie. Je vous emmerde, je parle très bien anglais, d'accord ? Ok, je regarde du contenu sur Netflix en anglais sans les sous-titres. Voilà. Et je comprends presque tout. Donc la compétition, c'est très bien. Il ne faut pas non plus diaboliser le fait de se comparer. C'est un putain de moteur. C'est aussi la force qui te, voilà, qui te force à élever tes standards. Et donc il y a un truc aujourd'hui, depuis que je me suis repris à la main sur le sport, j'ai un petit groupe avec des amis qui s'appelle Creuser l'écart. Voilà, c'est très inspiré d'une formule qui est beaucoup prononcée dans le podcast du Raptor 10 000 pas, que je vous invite tous à aller écouter, que j'aime beaucoup. Et donc on est à 3-4 dedans, avec des associés Kodak, des amis, etc. Blablabla. Et dedans, on voit un peu les... Donc moi, je log tous les jours mes calories. Ça permet d'avoir un signe public de est-ce que j'ai accompli ou pas les trucs que j'ai dit que j'allais faire. Et surtout, je vois les accomplissements des autres. Ils n'ont pas tous des objectifs de calories. Il y en a qui ont des objectifs de course, notamment ce putain de Guillaume Puech, qui a couru 27 km aujourd'hui. 27 km, moi j'ai couru 6 km, j'ai cru mourir. J'ai essayé de courir vite. Mais c'était trop dur. Lui a couru 27 km, cet enculé. Moi, il a déjà couru un marathon et tout. Et il y a quand même un niveau d'écart entre lui et moi. Mais quand je vois ça, je me dis, ah, bâtard. Et ça me force à être meilleur. Je me dis, il faut que je m'entraîne plus fort. Et non pas que je conditionne une partie de mon bonheur à ce truc-là. Je me dis, c'est possible. En fait, le mec, il s'est chauffé. Il partait j'ai vu le point de départ, il partait, il s'entraînait pas, rien du tout, il a commencé à courir. Il a fait un marathon dans l'année. Et ce truc-là, c'est très inspirant. Pour quelqu'un, tu dis, ok. Et t'as pas le seum, t'as pas envie de le redescendre, en fait. T'as envie de t'élever à son niveau. Et donc, la compétition, c'est exactement ça que ça fait. C'est quand t'as un gros concurrent qui arrive, tu devrais pas pleurer. Tu vas te frotter les mains en mode, ok, là, on va voir qui est bon. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui un petit peu dans le genre de récession start-up qu'on est en train de voir. Donc, les valorisations qui se pètent la gueule. Ça licencie, bref, toutes les merdes qui font que c'est pas une bonne année, et ça fait quand même quelques temps que ça dure pour les startups et l'investissement dedans. Et bien, finalement, il n'y a que le meilleur qui gagne. Il n'y a que le meilleur qui survit, qui puis ensuite va gagner. Et c'est derrière, c'est dans 2, 3, 4 ans, quand la situation sera revenue un peu à la normale et que les capitaux reviendront, qu'on verra qui est vivant et qui pourra rigoler et se foutre de la gueule de tous les gens qui sont morts. Mais là, maintenant, il faut être bon. Et les gens, ils n'aiment pas ça, ils n'aiment pas quand quelqu'un est meilleur qu'eux. Ils aiment pas quand il y a le putain de concurrent qui a levé plus d'argent, etc. Ok. Mais vas-y, défends-toi. Bats-toi, c'est super. Et c'est ça. Iron sharpens iron. Tu peux pas aiguiser un couteau sans aiguiser couteau. Suite. 7. La souffrance est nécessaire. Sur LinkedIn. Le putain de sketch. Santé mentale et tout, etc. Alors, je dis pas que c'est pas important, c'est super important. Et vous savez que j'ai eu mes élastiques hein, sur cette partie-là. Donc, j'ai eu des moments de down. Et donc, je vous dis, faites attention à vous. Et encore une fois, je ne parle pas de ces notions-là. Je parle de quand on les pousse à l'excès. Donc, la santé mentale, mes couilles. Les gens essaient tout le temps d'éviter la souffrance, partout. Ah, c'était dur, le rythme de travail de cette boîte était dur. Et tu vois, tous les trucs, ça, putain, mais en fait, moi, vous connaissez le compte Balance ta startup ou Balance ton agency? Je suis jamais allé le voir. Je suis allé le voir qu'une seule fois quand j'avais un client qui était My Jolie Candle et je suis allé voir un peu les stories qui se racontaient sur lui. Et de ce que je savais de la personne qui s'occupait de la boîte à l'époque, parce que je bossais avec lui en direct, c'est que c'était quelqu'un qui était très dur. Et en effet, il y a des dingueries qu'il a faites, qu'il a même lui-même reconnu d'ailleurs, très classe. Vraiment, c'est très rare hein, d'avoir quelqu'un qui reconnaît ses torts comme ça. Mais en fait, il y a tout le temps, les gens vous confondent en fait cette partie-là, des petits excès et tout, des trucs avec des juste le besoin d'être intense. C'est-à-dire le besoin de, il faut une quantité de, tu vois, quand tu veux t'entraîner, quand tu veux gagner la Champions League, oui, tu vas vomir à l'entraînement. Et le problème, c'est que il y a des gens qui vomissent à l'entraînement, ils font, mais j'avais pas envie de m'entraîner aussi dur. Et donc là, c'est la faute des entrepreneurs de pas avoir trouvé ces gens-là, parce que tous les gens qui veulent gagner la Champions League, normalement, ils sont prêts à vomir à l'entraînement. Ça veut dire que t'avais quelqu'un qui voulait pas gagner la Champions League. Et allez pas commencer à me faire les Théo là, il dit que faut fouetter les employés, etc. C'est pas du tout ça. C'est juste qu'à un moment, il faut c'est à la salle. Il faut soulever des poids. Il faut soulever des poids. Et il y a maintenant des gens, ils sont devenus soft. Ils sont soft. Ils sont fragiles et ils vont commencer à croire que LinkedIn, c'est la réalité. Et que, putain, pourquoi moi j'ai une chaise? Le mec là-bas, regarde, il fait son pépé dans une putain de piscine à boules. Je mérite une piscine à boules et une table de ping-pong et un billard. Et des fruits le matin. Arrêtez de vous faire acheter avec des fruits d'ailleurs dans les startups quand on vous rémunère pas. En fait, c'est ça. Pourquoi est-ce que tu peux vomir à l'entraînement? C'est parce que les joueurs sont très bien payés. Ils savent qu'ils sont payés pour cette souffrance-là. Ils savent qu'ils veulent gagner la Champions League. Évidemment, n'allez pas vomir à l'entraînement si vous êtes payé râler pâquerette. Si on se fout de votre gueule, si vous n'êtes pas justement compensé. Et c'est votre devoir, vous, si jamais vous êtes dans cette situation-là, de faire en sorte que vous soyez justement compensé. Mais une fois que vous êtes justement compensé, il faut cravacher. Et c'est ça qui donne son sens à une aventure. Être oisif, c'est de la merde. Personne ne veut ça, même pas la personne oisive. Elle pense qu'elle veut ça quand c'est dur, et pas du tout. Ça me fait penser parfois quand j'ai des périodes très très dures de travail. Avant, j'avais un chat, et je regardais mon chat, et je me disais, mais putain, il a vraiment la belle vie, ce chat. Et après, en fait, quand t'es dans une période plus tranquille où tu kiffes, tu te dis, mais attends, mais en fait, ce chat, il peut rien faire. Il se balade dans l'appart, il fait rien, il dort, il vient, il fait des câlins, ça c'est stylé. Bouffe des croquettes. Sa vie, c'est de la merde. En fait, c'est ça qui donne tout son sens au truc. C'est la souffrance. Et c'est pour ça aussi que je pense que c'est un peu un cercle vicieux. De moins on tolère la souffrance, plus on est en mode dans la santé mentale, etc. et tout, qui sont des trucs importants, je le répète. Plus, bah, en fait, il y a une perte de sens. Parce qu'on fait plus rien. Bref, voilà. Et donc, ça fait aussi... Il y a souvent un contre-argument qui est avancé à ça, c'est que quand tu travailles sur ta passion, même quand tu es freelance, etc., ils disent, attends, mais moi, j'ai une passion, je suis peintre, je suis sûr que je suis peigné toute la journée pour gagner ma vie, ça serait trop lourd. Alors, spoiler, non. Parce qu'il y a une différence entre être un amateur et un professionnel. Il y a un bouquin que je vous conseille qui s'appelle The War of Art, et il y a la suite qui s'appelle Turning Pro, qui a été écrit par Steven Pressfield, et qui explique, en fait, il analyse la force de résistance dans les process créatifs. C'est-à-dire, quand tu dois te poser pour écrire un bouquin, pourquoi est-ce que tu n'arrives pas? Et il explique que, justement, le problème, c'est que les gens sont des amateurs et pas des pros. Le pro, c'est quoi la différence entre un amateur et un pro? C'est qu'un pro, il fait le truc même quand il n'a pas envie. Et les gens ne veulent plus être des pros aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a un ramassis d'amateurs, on a maintenant. Ce qui fait que la barre est beaucoup plus basse. Les standards de tout le monde sont beaucoup plus bas, donc il suffit que vous ayez des standards un petit peu plus haut que les uns que les autres. Et il y a 20 ans, vous auriez été average. Là, maintenant, vous êtes top 1%. Juste parce que la barre, elle est descendue. Voilà, donc quand tu veux être un professionnel, tu peux pas juste taffer quand tu as envie. Après, il faut juste choisir d'être un professionnel. Encore une fois, c'est une histoire de choix. Faut pas juger les choix des autres. Mais par contre, une fois que tu as fait ton choix, là, je peux te juger. Et dernière chose, celle-là, je vais pas la développer, c'est que le signalement de vertu est inversement proportionnel à la vertu. Vous avez compris. Moins il y a de confiture, plus on l'étale, et moins vous avez de valeur, plus vous les étalez, et plus vous êtes une merde. J'espère que les pendules ont été remises à l'heure. Ça fait combien de temps? 1h03. Parfait. On passe à la quatrième partie, performance. Check. Je vais gâcher un petit message parce que je suis en même temps en train d'organiser un petit dîner. C'est compliqué hein, quand on fait le podcast en même temps. Hop, 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 quelle heure? Ok, bon, je regarderai après. J'arrive pas à faire deux choses en même temps. Je vous ai dit, il faut être focus. Pourquoi est-ce que j'ai regardé mon téléphone? Parce que j'ai une notification désactivée ou une notification. J'ai pas désactivé Messenger. D'ailleurs, ceux qui ont des Apple Watch, c'est très chiant quand ça vibre. En fait, moi, j'avais aucune notification sur mon téléphone. Même sur les messages, ça n'affiche pas le message. En fait, je vois que j'ai reçu un message, mais je le regarde pas. J'arrive pas à désactiver sur l'Apple Watch. Je vais trouver. Je suis pas un boomer à ce point-là quand même. Me méprisez pas. Mais c'est chiant, tu vois, ça déconcentre, ça défocus. En fait, franchement, honnêtement, c'est facile. C'est facile d'être bon dans un truc. Pas facile d'être excellent, mais c'est facile d'être au-dessus de la moyenne. Juste, soyez concentré sur un truc pendant longtemps. C'est tout. Les gens, ils n'arrivent pas à être concentrés. Ils n'arrivent pas à faire quelque chose pendant longtemps, donc vous faites n'importe quoi pendant plus longtemps que les autres. Concentrez-vous sur un sujet. Pendant 2 mois, vous êtes meilleur que 99% des gens. C'est stylé de dire ça, mais à la fois, c'est triste. Catastrophique. Il n'y a plus de professionnels. Passons à la suite. Performance check. Je vais vous traiter une petite idée que j'ai en tête depuis pas mal de temps. Je vous en avais parlé dans la vidéo sur Naval, sur les leviers. où je vous avais détaillé comment utiliser chacun des leviers pour faire grossir votre business. Et puis, en même temps que j'écrivais cette vidéo, enfin, ce petit passage, pardon, de podcast, je me disais, et attends, mais il y en a... J'ai l'impression qu'il a oublié un levier naval. Je me suis dit, et j'y réfléchi depuis 2-3 semaines en me disant, bon, je vais essayer de trouver des contre-exemples. Et puis 3-4 semaines, c'est même plus que ça. C'est plus que 3, finalement, c'est un mois et demi. Hein. Je crois que j'en avais parlé il y a longtemps, parce que j'avais même échangé avec un gars sur Instagram sur ce truc-là, qui m'avait demandé, c'est quoi le levier que tu penses qu'il a oublié. Je ne sais plus quand c'était. Mais je n'ai pas trouvé de contre-exemple, donc je vais vous exposer ma réflexion. Donc en gros, je pense qu'il y a un cinquième levier qui existe. Donc, je vous ai parlé des 4 premiers leviers. C'était les people. En gros, reprenons les choses dans l'ordre, car nous devons être structurés, même si c'est Road to 10 Million en roue libre. Un levier, c'est quoi la définition exacte d'un levier ? Un levier, c'est un facteur multiplicateur d'une action, disons. Exemple, si je trouve une machine dans la nature qui multiplie l'argent que je mets dedans par 2, et dans ma poche j'ai 1 euro, je mets 1 euro, je reçois 2 euros. Et je me rends compte que rapidement, si j'avais plus d'argent, je gagnerais beaucoup plus en sortie. Donc là, je vais voir un pote et je lui dis, frérot, prête-moi 100 euros, je t'en rends 110. Et donc, il accepte. Et je prends ces 100 euros, je les mets dans la machine, je récupère 200 euros, je lui en donne 110, j'ai gagné 90 balles. Avec rien. Et donc là, j'ai utilisé du levier pour m'enrichir. Parce que j'ai utilisé un multiplicateur pour accélérer un processus. Et donc, Naval explique que les plus grosses boîtes de ce monde sont construites toujours sur 4 leviers. Il y a 4 gros leviers, en fait, et 4 types de leviers qui ont des sous-catégories, qui permettent d'accélérer les choses. Le premier, c'est le people. Donc, le people, ça veut dire les gens. Donc en gros, tu as une entreprise, tu travailles sur un projet, tu fais en sorte qu'il y ait une deuxième personne qui travaille sur le projet, tu vas plus vite, troisième, quatrième, cinquième, etc. C'est le levier le vieux comme le monde. Le deuxième levier, vieux comme le monde, c'est le capital. Ça, c'est l'argent, simplement. Donc tu vas investir dans une startup, ça va lui permettre d'aller plus vite, tu vas aller voir la banque pour acheter un bien immobilier, ou tu vas voir ton pote pour qu'il donne 100 euros à mettre dans la machine. Le quatrième, c'est le code. Ça veut dire que ça va te permettre de produire une fois pour vendre 1000 fois. Donc au lieu de faire de vendre une formation physique, tu vas enregistrer ta formation, un logiciel, tu vas la rendre disponible sur Internet et tu vas la vendre à 1000 personnes. Ou alors tu vas construire un produit qui permet aux gens de résoudre le problème que toi, tu aurais résolu à la main. Bim, tu as du code. Et le quatrième, c'est le média. Le média, c'est quand tu veux faire passer un message à quelqu'un, soit tu peux lui dire en direct, soit tu peux faire en sorte que ce soit écrit dans le New York Times. Du coup, c'est la relation one to many. Ça veut dire que ça te permet de scale. Donc aujourd'hui, Joe Rogan, quand il dit un truc, il est écouté par des millions de personnes, donc il y a un leverage de ouf à toutes les idées qu'il véhicule. Elles se répondent beaucoup plus vite que si moi, j'essaie de répondre à une idée. Le problème de ces 4 piliers, c'est qu'ils ne servent pas, ils ne suffisent pas pour tout expliquer. Je vais vous prendre un exemple pour ça. Une rumeur. Non, vraiment une rumeur. C'est-à-dire, une rumeur, en fait, elle se propage de façon exponentielle sans faire appel à aucun de ces 4 leviers. Je ne sais pas si vous vous souvenez, moi, quand j'étais au collège, donc je suis de 97, ça veut dire que bon, ouais, j'ai été au collège pour les années collège. Bon, c'est les années 2000, 2005, 2000, un truc comme ça, 2006, entre 2006 et 2010. Et à cette époque-là, il y avait une rumeur que tout le monde connaissait. C'était que Marilyn Manson, là, le mec gothique, il s'était fait retirer des côtes pour pouvoir se faire des fellations tout seul. Alors, je suis désolé si vous débarquez dans ce podcast et vous attendiez certainement pas à ça, mais ce qui m'avait choqué avec cette rumeur, c'est que tout le monde était au courant, personne n'avait de preuve que c'était vrai, personne n'avait vu ça dans un média, tout le monde l'avait entendu de quelqu'un. Et c'est jamais passé par un média, ce truc-là. Et pourtant, parce qu'à l'époque, on n'avait pas TikTok, hein, les potes. Hein. On n'avait pas les iPhones. J'avais un iPod. D'accord ? Et un iPod, tu ne pouvais pas aller sur Internet. Je peux te le dire. Et pourtant, tout le monde connaissait ce truc. Mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Il y a plein d'autres rumeurs. J'en ai pas trouvé, je ne sais pas pourquoi je me suis rappelé de celle-là. Mais peut-être si ça vous dit quelque chose. Ça me fume parce que tout le monde est au courant de ce truc super précis et c'est totalement faux. C'était sûr, c'était faux. Je sais pas, mais putain, même je suis en train de douter là maintenant. J'aurais dû faire une recherche internet, mais bref, vous avez compris l'idée. Et donc, en fait, tout le monde est au courant, c'est-à-dire tout le monde, 100% du collège savait ce truc là. Et je sais pas si vous vous rendez compte, mais aujourd'hui, il y a des boîtes, il y a des startups, des entreprises qui font du marketing pour essayer de faire connaître leurs produits aux collégiens. Ils arrivent pas, ils dépensent des centaines de milliers d'euros. Faire de la pub, et ils n'arrivent pas à toucher tout le monde. C'est vraiment, c'est une fois par décennie, en fait, les Biril, les TikTok, les trucs qui arrivent vraiment à toucher, les Snapchat, ces trucs-là, ces boîtes de ouf que tout le monde connaît, mais c'est 100% des gens. Eh bien, en fait, quand on prend ce truc-là de la rumeur, il passe pas par les quatre piliers. Vous allez peut-être me dire, non, mais c'est du média, en fait. Mais non, mais le média, ça se définit par one too many. Quand une personne, parce que la rumeur, elle passe de bouche en oreille. Quand une personne parle à une autre personne, elle le gueule pas sur la place publique, en fait. Elle dit, elle en parle à une personne qui en parle à une autre personne qui en parle à une autre personne, et ça crée de la viralité. Donc ce n'est pas du média. Ou alors, peut-être que vous allez me dire que c'est le levier people, mais malheureusement, les gens ne travaillent pas pour cette idée. Donc je ne trouve pas que ça rentre dans ce pilier people. Les gens, voilà, ils n'ont aucun intérêt à véhiculer cette rumeur. Tu ne les fais pas travailler sur un projet. Je veux dire, la rumeur se répand toute seule. C'est ça qui se passe. Et donc, il y a un levier qui n'est pas dans les quatre là, qui permet d'accélérer la propagation d'une idée. Et donc, on peut remplacer l'idée par... Enfin, dans l'idée, on peut mettre ce qu'on veut. Hein. Ça peut être une entreprise. Si tu arrives à bien packager ton idée, eh bien, peut-être qu'elle peut se diffuser comme une rumeur. Et pour moi, ce dont je suis en train de vous parler, c'est en fait l'évolution du levier, le média. Parce que la première chose, c'est que le média, c'est plus aussi autant un gros levier que ce que c'était. Principalement parce qu'aujourd'hui, tu ne reaches plus des gens avec des pages qui ont des abonnés et tes abonnés voient les contenus que tu postes. Entre les deux, maintenant, il y a les algorithmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai un compte Instagram avec 200 000 abonnés. Je peux faire une... Si j'ai ça, je ne dis pas que j'ai ça. Moi, j'ai 38 000 abonnés, ce qui est déjà pas mal. Je suis très fier. Abonnez-vous à Théo Le Lion. J'ai mis un truc avec... voilà. Et un compte avec 38 000 abonnés, je mets une vidéo, parfois, elle peut faire 5 000 vues. Donc mon média aujourd'hui, j'ai un média, mais j'ai pas de reach. Enfin, je peux ne pas avoir de reach. C'est le cas. Sur TikTok, c'est la même chose. Et à côté, il y a un mec qui met sur YouTube une vidéo random, il a 3 abonnés, mais la vidéo, c'est frelon asiatique contre scorpion, une bataille en 7 minutes, dans une putain de boîte plastique, là. Et le mec, il fait 1 million de vues. C'est parce qu'il a compris l'algorithme, et ça a plu aux gens. Donc aujourd'hui, maintenant, ce qui plaît, enfin, ce qui fait qu'un contenu est leveragé, c'est ce qui répond aux algorithmes. Donc en fait, est-ce que l'idée, elle est virale par construction? Et donc tu peux en fait construire des concepts comme des idées virales ou pas virales. Et donc le même concept peut être marketé de façon virale ou pas marketé de façon virale. Un exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Biril, pour se faire connaître dans les médias, ils avaient choisi un angle qui était super intéressant. Donc en fait, Biril, ça fait quoi? C'est une application que vous connaissez peut-être pas d'ailleurs, si vous écoutez ce podcast, enfin, j'espère pour vous, ou alors vous avez vu une vidéo que j'ai faite. Parce que j'ai fait une vidéo sur Biril, c'est une app où tu reçois une notification et tu dois te prendre en photo et ça prend photo devant et derrière et après une fois que tu as soumis ta photo, tu peux voir la photo des autres. Donc c'est un peu compliqué à expliquer mais c'est très simple. Donc ce truc là, t'arrives, si tu le présentes à des gens, ça se propage pas forcément très facilement. Par contre, la façon dont ils en ont parlé dans les médias, c'est qu'ils ont dit Biril, c'est le Instagram killer. C'est-à-dire qu'à l'inverse d'Instagram où il y a tous les filtres, les photos, etc., Biril c'est l'authenticité. Et là, boum. C'est un exemple de comment rendre une idée virale. C'est la même boîte, c'est Biril derrière. C'est juste qu'elle a été packagée, il y a eu un excipient, comme pour un médicament, il y a le principe actif et l'excipient. L'excipient, c'est le petit goût qui rend le truc un peu mangeable. L'équivalent d'un cheval de Troie, ça veut dire que tu as le cheval qui est tout beau, mais à l'intérieur, tu as l'armée d'Ulysse. Eh bien, l'idée se propage. Et ils ont eu plein de retombées médias parce qu'ils ont utilisé la notoriété d'Instagram et un Instagram killer, tout de suite, c'est beaucoup plus vendeur. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, ce sont les idées qui deviennent un leverage parce qu'elles donnent accès aux médias. Elles donnent accès à la diffusion. Et tu n'as plus besoin d'avoir un média pour avoir une idée qui est leveragée. Et c'est la même chose quand tu veux faire interdire un bouquin. En fait, ça fait l'effet inverse. C'est la même chose quand vous voyez quand les stars veulent faire disparaître une vidéo d'elles sur Internet. Ça produit l'effet inverse. Vous dites, ah putain, Madonna, elle a supprimé telle photo. Regardez là, elle est là, la photo qu'elle a voulu supprimer. Et en fait, tu as 100 fois plus de personnes qui le voient que la première photo. Je crois que ça a un nom d'ailleurs, ce phénomène. Il faudrait que je le trouve. Et voilà, donc t'as une façon de... Ça, c'est du leverage. C'est-à-dire que tu as transformé... C'est la même photo. La photo, si t'avais pas essayé de la supprimer et qu'on n'avait pas vu que t'avais essayé de la supprimer, elle ne serait pas diffusée. Donc t'as mis ça dans une idée virale. Et je regardais il n'y a pas longtemps un sketch de Dave Chappelle. C'est quand il reçoit son prix, je sais plus dans quelle école d'art, là. Mais allez voir sur Netflix, j'ai noté, parce que c'est à 17 minutes 01, où il parle d'un moment où il est assis dans une salle d'attente. Il regarde, et il y a un tableau d'Abraham Lincoln sur sa droite. En fait, c'est un tableau qui est fait qu'avec des pennies, donc des centimes. Et il demande au mec dans le lobby d'hôtel, là, il lui dit, écoute, combien coûte ce tableau? Il lui dit, il coûte 300 000 euros. Et là, Dave Chappelle, il regarde le tableau, il compte, et il dit, mais attends, il y a peut-être 300 euros quoi, de centimes dedans. Et il s'en sert pour expliquer pourquoi est-ce que l'art, c'est créateur de valeur. Et l'art, c'est par excellence la façon de packager les idées la plus leverageable.
cette phrase d'enculé. Et vous voyez que cette idée, quand tu arrives à mettre en peinture, mettre dans une œuvre une idée, tu peux faire passer 300 euros de pénis à 300 000 euros de valeur marché sur une œuvre d'art. Et donc aujourd'hui, il existe des façons de présenter des concepts pour qu'ils deviennent viraux. Et donc, je vous ai fait j'avais fait une vidéo sur le sujet il y a longtemps. Et je voulais vous. Qui s'appelait comment ? Ça s'appelait l'anatomie de la viralité, l'anatomie du buzz. Vous la trouver sur ma chaîne YouTube. Et donc dedans, dans cette vidéo, je parle d'un bouquin qui s'appelle Contagious, qui a été écrit par Jonah Berger, je crois, et qui présente un modèle pour que les idées deviennent contagieuses. C'est le modèle STEPS, STEPPS. Et donc comment vous pouvez vous servir de ce truc-là ? Prenez un truc dont vous voulez que votre cible entend parler. Donc pour du marketing, c'est l'application la plus directe. Et essayez de le faire passer par ce petit filtre. Donc le premier S de STEPS, ça veut dire social currency. En gros, c'est quoi ? C'est les conditions pour qu'une idée soit virale par construction. Donc la social currency, c'est il faut que votre idée, que vous voulez faire se propager, elle, lorsqu'elle est formulée par quelqu'un, qui va du coup en parler par bouche à oreille, elle ait une valeur sociale. En gros, c'est comme quand un hipster ou un digger de musique techno, il trouve un petit artiste underground. Et ben quand il trouve un petit artiste underground, il va jamais fermer sa gueule dessus. Vous savez, il en parle tout le temps, il dit oh, « je les connaissais avant qu'ils soient connus, écoute-le, ils vont péter là ». Et ben ça, c'est l'exemple parfait, parce que dans la sous-culture des hipsters, ou des, prenons les digueurs de techno parce que je suis là-dessus, eh bien, ça lui fait gagner du statut que de parler de ce truc-là. Donc, ce qui est important, c'est que, essayez de comprendre un petit peu la cible que vous allez toucher. Dans son groupe social, qu'est-ce qui lui fait gagner du statut ? Et donc, par exemple, dans le groupe des marketeurs, enfin, dans le groupe des startups, prenons les startups, ce qui fait gagner du statut, c'est d'avoir les investisseurs les plus stylés. Et donc, si je veux être un investisseur et qu'on parle de moi tout le temps, il faut juste que j'arrive à rentrer dans un gros deal dont tout le monde parle. Dans un gros deal, je ne sais pas combien de centaines de millions, bon, j'ai un peu reverse l'équation là, mais il faut lever beaucoup d'argent. Vous voyez, en fait, essayez de vous poser la question, et parfois c'est des trucs qui sont inavouables. Essayez de vous dire, dans le groupe social de ma cible, qu'est-ce qui est vecteur de statut ou pas, et comment est-ce que je peux faire en sorte que parler de moi, ça soit associé à progresser en statut. Vous voyez, c'est des notions qui sont très c'est assez fondamental comme truc, c'est pas très pratique, mais souvent c'est le signe que c'est des bonnes idées. En fait, les idées qui n'ont pas une application directe à laquelle vous pouvez penser, c'est souvent les idées qui sont les plus stylées, parce que la plupart des gens s'arrêtent là. Filme-moi un tuto, comment je mets de la social currency ? Bah, nique ta mère, en fait. tu ne mérites pas d'exploiter ce levier. Tu veux un tuto, va sur YouTube. Enfin, cherche des trucs plus simples. Tuto Facebook Ads, il y a un mec là, un petit blond là, grand blond avec une tête d'enfant là, qui va te faire des tutos. Ça ira beaucoup plus vite. Là, on parle entre adultes. Après, le S vient le T, de triggers. Triggers, ça veut dire déclencheur. Donc, en gros, ça aide. Ça suffit pas qu'il y ait de la valeur sociale dans ce que tu dis pour qu'on en parle. Il faut que la personne se rappelle souvent d'en parler. Est-ce que vous savez pourquoi on mange de la pizza devant les matchs de foot ? C'est à cause, je sais plus, c'est Domino's ou Pizza Hut qui a décidé de marketer son produit comme ça. Donc vous voyez, il faut vendre plus de pizza. Ils se sont dit, bon, à quel événement je peux me pluguer ? Oh putain, bon, les gens regardent du foot, je vais faire en sorte que je vais faire plein de pubs en mettant les pizzas devant le match de foot, et les gens, à chaque fois qu'il y aura un match de foot, ils vont dire « Ah, faut que je me commande une pizza !» Et ça marche super bien, parce que du coup, c'est le match de foot qui fait ta pub. Et ça, c'est l'exemple génial. C'est pour ça que les notifications, c'est la même chose. Les notifications, ça te rappelle, c'est un trigger. « Ah, c'est un rappel qu'il faut que j'aille voir ce truc-là » Donc, c'est quelqu'un qui prend le contrôle sur ton attention. Donc, mettez des triggers, essayez d'avoir des... C'est pour ça, je pense, pour les agences, par exemple, il peut y avoir des goodies, quand vous faites un stylo avec marqué votre marque dessus. Bah, la personne, quand à chaque fois qu'elle écrit, elle se rappelle « Ah putain, je suis Kodak !» On n'a pas vu de stylo. Hein. On devrait faire des stylos, ça fait longtemps que j'ai l'idée, mais c'est vraiment sous-prioritaire. Voilà, donc triggers. Le E qui vient après, c'est le E de emotions. En gros, quand il y a même une typologie d'ailleurs des émotions qui font plus ou moins se propager des idées. Souvent, c'est les émotions fortes. Quand les émotions, donc la haine, la joie profonde, quand on gagne la Coupe du Monde, t'as envie d'en parler. Quand tu es enragé par un truc, une loi qui passe ou tu n'es pas content, l'idée se propage beaucoup plus quand tu arrives à associer ça à quelque chose de très très fort, une émotion très très forte. C'est pour ça que la haine, ça marche très bien. C'est pour ça que quand tu rages, les vidéos critiques sur Internet, les trucs, etc., ça se propage super vite, les algorithmes, ils kiffent. Parce qu'il y a une émotion très forte quand tu vois un clash, par exemple, entre deux personnes. Et on va y revenir dans le dernier S. Donc émotion, essayez de qu'il y ait une émotion forte associée à votre truc. Quatrième chose, public. Comment est-ce qu'on peut dire ça ? L'exemple qu'il donne, c'est par exemple aux US, quand les gens ils vont voter, on leur donne un petit badge à voter. Ils ont un petit pins là, ils se le collent sur eux. Et du coup, à chaque fois qu'ils se baladent dans la rue, bah, tout le monde voit qu'ils ont voté. C'est notamment de ça que bénéficient les marques de vêtements. En fait, plus une marque de vêtements est successful, plus il y a de gens qui portent les vêtements, donc plus il y a de gens qui voient que les gens portent les vêtements. Et donc, plus il y a de gens qui portent les vêtements, ça fait. Vous avez suivi. C'est un cercle vertueux. Il faut idéalement que que chaque personne. Putain, comment je traduis ça à une idée? C'est un peu compliqué à ramener ça à un concept. Comment ça parle pour un concept? Il faut que les personnes qui adhèrent à votre concept soient visibles, plus ou moins. Que ça puisse se voir. Mais c'est super dur. Hein. C'est très, très dur. Mais il faut que, par exemple, quand il y avait des trucs, vous souvenez de Farmville là sur Facebook? Farmville, c'était le petit jeu où t'avais toujours ton pote le moins stylé qui avait le moins de potes qui t'invitait à jouer une partie de Farmville. Au début, en fait, ils savaient pas qu'ils t'invitaient à jouer une partie de Farmville, puisque Facebook prenait les autorisations et partageait automatiquement le jeu. Il disait, ah, truc, t'invites à jouer à Farmville. Bah, ça, c'est l'exemple. Quand tu joues à Farmville, tout le monde voit que tu joues à Farmville, t'as envie de partager des trucs. Bah, ah, Strava, c'est un très bon exemple. Strava, avec moi qui fais de la course. Quand t'es sur Strava, t'as envie de partager tes trucs. Pourquoi? Parce que déjà, il y a de la social currency. Bah, on peut faire avec l'exemple avec Strava. Strava, il y a de la social currency. C'est parce que bon, bah, t'as couru, t'es content. Il y a un trigger, il y a un petit bouton partagé. Quand tu as un peu je l'ai dit tout à l'heure là, elle a pris un effort. Là, pas la sérotonine, pas la dopamine, les endorphines. T'as une émotion, t'es super content d'avoir couru. Et tu peux rendre ça public avec un clic, le bouton partagé. Et ensuite, on va voir si ça continue. Et avec les deux derniers, le P et le S. P, c'est practical value, il faut que ce soit utile. Ça pour le coup, partager un truc Strava, c'est pas de valeur utile pour les gens. C'est vraiment que du flex. Mais je pense à ça parce qu'il y a une vidéo, il y a plein de vidéos. Moi, j'ai appris comment consommer un paquet de chips avec une vidéo qui était devenue virale. Vous savez que les gens, quand ils replient le paquet de chips par le bas, là, ils l'ouvrent, ils replient par le bas et du coup, ça fait un socle plat qui te permet de le poser sur une table et qui ne traîne pas de façon dégueulasse. Bah, ce truc-là, ça a une valeur pratique de ouf. Et du coup, ça se propage très très vite. C'est un petit peu un hack. Il y avait un hack aussi sur comment replier les vêtements. Il y a une vidéo qui tourne pas mal en ce moment où c'est un petit Asiate qui replie un vêtement avec un bout de carton là, qu'il a coupé. Et il fait boum boum comme ça et après, le vêtement, il est plié. Vous avez compris, hein, boum boum. Vous retrouvez la vidéo sur internet, hein, je vous laisse. C'est assez d'informations. Et la dernière chose, c'est le S de stories. Et la story, c'est que c'est comme ça que l'UFC market les combats, par exemple, ou la boxe. Ils disent c'est l'histoire de deux personnes, une opposition de style, le lutteur contre le boxeur. Et puis en fait, ils se sont entraînés une fois ensemble. Ça, c'était Ngannou versus Cyril Gane, ceux qui se souviennent. Ils se sont entraînés ensemble. Il a quitté son entraîneur. C'est une histoire de bad blood, comme ils disent. Ils vont en découdre. Et voir le dénouement, il faut payer le pay-per-view. Et ben, les stories, c'est la même chose. C'est pour ça que plein d'événements forts en émotion, quand ils sont couplés avec des histoires, ça fait un truc explosif. Je sais pas pourquoi j'ai pensé directement à la bagarre Booba versus Karis. quand ils s'étaient battus, là. En fait, c'est l'histoire de. Il y avait des antécédents, il s'était déjà passé des événements, là, bah, un événement qui devient hyper viral et tout le monde est au courant d'un coup. Parce qu'il y a un peu un background. Voilà. Donc, c'est le modèle STEPS. Donc, le levier des idées virales, en gros, simplement, il n'est pas présent dans les quatre de Naval. Il fait se propager des concepts avec des relations en one-to-one, donc par du bouche-oreille, sans passer par les one-to-many. C'est exactement comme un virus. Un virus, ça se propage. C'est moi qui le file à une personne, qui file à une autre personne, etc. Je te le passe, tu me le passes. Et voilà. Et ça permet surtout, quand tu as le levier des idées qui est bien réglé, d'accéder aux trois autres leviers plus facilement. Pas les quatre, parce que le code, ça t'aide pas forcément d'avoir une bonne idée. D'avoir des idées qui sont virales, parce que c'est pas la même chose qu'avoir une bonne idée. Par contre, ça t'aide à avoir des gens qui travaillent pour toi, donc c'est les gens qui font ton bouche-oreille. Ça t'aide à récolter du capital. Et ça t'aide à accéder aux médias. Voilà. Donc, construisez vos idées de façon virale. C'est un principe fondamental qui peut vous permettre de mieux marketer vos trucs. Voilà. Et on passe à la toute dernière partie de ce podcast. La FAQ, je sors mon téléphone. Merci beaucoup pour toutes vos questions. Il y en a pas mal. Je pense que je vais bientôt arrêter. Je vais arrêter le podcast à 1h40. Comme ça, on va voir combien de temps ça me prend de répondre aux questions. Je les rouvre. Alors, hello. Donc, c'est LPA 3D. Je dis vos pseudos. Hein. Hello, j'ai du mal à trouver des OKR à fixer à mes deux salariés. Elles font de la prod graphiste. Alors la première chose, LPA 3D, c'est que des OKR, c'est pas pour des personnes, c'est pour une boîte. Et justement, ça permet de rassembler une boîte. Ce qui est intéressant pour une personne, je trouve, moi, c'est d'avoir une key métrique. C'est-à-dire, tu dis à la personne qui est graphiste, je vais juger ton travail sur ça. Ça peut être en combien de temps tu arrives à sortir les trucs, est-ce que le client il est content quand il reçoit ton truc, Est-ce que ce que tu produis correspond au brief qu'on t'a envoyé? Et donc, il faut qu'il y ait une personne qu'on atteste. Et donc, ça. Et en fait, ça dépend aussi pas mal de la culture de ta boîte. Qu'est-ce que tu veux renforcer? Et ça, c'est très important, en fait, ce que tu vas fixer comme key metric va en dire long sur ce que tu punis et ce que tu rewards. Et c'est ça qui construit, en fait, ta culture de boîte. Ensuite, TMARND, Tom Arnaud, peut-être un truc comme ça. Qu'est-ce qui te fait kiffer et qui te donne envie de te lever tous les matins? Rentrer dans l'histoire. Faire un truc gigantesque sur un marché pas drôle, celui des agences. Alors, c'est ça. Et ensuite, c'est le faire en public. Le faire à tout le monde. Et à la fin, faire... je vous avais dit quoi? Personne peut me tester. Depuis tout à l'heure, il me téma. C'est Cédric Doumbé, hein, pour ceux qui regardent un petit peu la bagarre. Non, bref. C'est faire un truc gros. Mais c'est ça qui m'excite. C'est la croissance. Vous voyez, même dans tous les trucs, je me pose tout le temps la question de comment les trucs, ils grossissent. Pourquoi est-ce qu'ils grossissent comme ça? Comment est-ce que ça peut grossir plus vite? Donc, j'ai envie de faire un truc fatasse. Et ça me fait kiffer. Voilà. Tu travailles combien de temps par jour, par semaine? Alors, mon emploi du temps aujourd'hui, maintenant, il est très réglé. Avant, je n'avais pas vraiment de routine. Maintenant, j'en ai une. Le réveil sonne entre 6h45 et 7h15, selon le jour. Je me rends à la salle, ou alors je vais marcher, ou alors je vais courir, selon les matins. À 9h, je commence à travailler. Je fais un 9h à 19h avec une heure pour manger, 30 minutes, ça dépend. Mais vraiment très intense. Et 19h, j'ai arrêté là, je fais autre chose. Souvent, c'est parce que j'ai le cerveau qui est flingué. Peut-être parfois, je me refais une nocturne, je me fais une 20h, 22h, ou une 21h, 23h, un truc comme ça, quand j'ai vraiment envie de travailler sur un truc. Mais sinon, c'est le moment où je lis, je revais marcher. Parce qu'il faut faire 10 000 pas quand même, c'est loin. Salaud de Raptor, là, il nous fait 1h30. Hein. 1h30 quand même par jour hein, pour faire 10 000 pas. Et ça fait combien de temps? Ça fait un mois et demi que je le fais. Putain, qu'est-ce qui m'a matrixé, ce salaud? Mais c'est bien parce que du coup ça permet d'écouter des podcasts aussi. Donc j'espère que vous écoutez d'ailleurs aussi ce podcast en marchant si vous avez fini celui du Raptor. Voilà. Quand tu te lances avec 0 abonné sur les RS, donc ça c'est Pectome38 qui nous demande ça, comment faire pour se développer et se faire connaître? Eh bien écoute, tu vois le modèle Steps que je viens de donner, tu fais exactement la même chose. Tu essaies de faire en sorte que ton idée, ton contenu passe par ce filtre, par ces 6 étapes. 6 étapes, 7, 6. Par ces 6 étapes. Et en fait, quand tu prends n'importe quelle vidéo virale et regarde, il y a toujours. Elle répond toujours à ces piliers, quasiment tous. Pas tous. À ces 6 piliers du modèle STEPS, dont je vous répète, c'est Contagious de Jonah Berger. Le lait avant ou après les céréales? Demande Eugène Basset. Écoute, frérot, je prends pas de petit déj. Désolé, beau gosse. Les gens sont-ils forts car ils aiment leur travail ou l'aiment-ils car ils y sont forts? Waouh! C'est l'œuf et la poule, ça. On s'en branle. Hein. Finalement, ce qui est important, c'est je pense que ça aide. Disons que c'est compliqué d'aimer un travail dans lequel tu es nul et on te dit que tu es nul tout le temps. Donc ça peut te faire prendre goût aux choses. Particulièrement quand tu es petit, je trouve. Quand tu commences à être bon dans quelque chose, ça crée une confiance en soi terrible. Ça te fait aimer des trucs et après tu te rends plus tard, en fait, tu n'aimais pas tant que ça. Tu aimais juste le fait que d'être bon et d'être un peu meilleur que les autres. Donc, ce n'est pas un moteur qui est... J'en ai parlé, hein, d'ailleurs, le moteur de la compétition. Je pense que les deux, ils contribuent et que il faut quand même essayer de trouver quelque chose. C'est chiant, quand même. Et puis, c'est inquiétant, surtout si tu aimes beaucoup quelque chose, tu le fais longtemps et que tu n'es toujours pas bon. À moins que ce soit vraiment un loisir. Mais moi, ce n'est pas mon truc. J'aime pas faire des trucs à vrai. Je préfère pas les faire, en fait. C'est pour ça que j'ai arrêté de jouer au poker, par exemple. J'ai senti que j'étais redevenu nul et ça m'a saoulé. J'aime pas faire des trucs à moitié. C'était Aloïs, DCRS. Je suis la meilleure head of sales et je serais ravi de bosser avec toi. On en parle. Malheureusement, on vient de recruter. Désolé. Qu'est-ce que tu conseilles aux freelances qui se lancent pour prospecter in et outbound? Ah bah écoute, je te conseille, j'en parlais avant dans la partie roadmap, c'est Anas Benada qui demande ça. Je te conseille d'identifier précisément un problème chez eux et de montrer en 2-3 bullet points que tu as compris le problème et que tu peux y apporter une solution. Parler des concurrents, dire il y a tel concurrent qui fait ça, pourquoi tu le fais pas? Ou alors telle marque à qui tu pourrais ressembler qui fait ça, pourquoi tu ne fais pas? Moi je peux t'aider à le faire, viens on discute. Ça si tu le fais assez de fois, souvent ça va pas marcher au début parce que tu ne comprendras pas assez le problème de ta cible, mais au fur et à mesure en fait tu vas toucher dans le mille. Voilà. Sam Benichou, combien de renta sur le million? Putain, mais c'est quoi? En fait j'en ai marre des gens qui posent des questions comme ça parce que déjà je ne fais pas 1 million de CA, j'ai 3 millions l'année dernière, on va faire 4 millions cette année, et ensuite les gens ils disent, en fait, cette question, qu'est-ce qu'elle sous-entend? Je sais comment tu l'as écrit, Sam. Je sais comment tu l'as écrit. Tu l'as écrit comme 99% des autres gens qui le pensent. C'est, tu t'es dit, ah, il fait du CA, mais c'est quoi la renta? Et les gens, ils se sentent intelligents quand ils disent ça. Frérot, je te communique mon EBITDA en public. Premier trimestre, 21%. Deuxième trimestre, 20%. EBITDA. Voilà. Et donc ça, c'est sur nos chiffres qui sont plus qu'un million. Est-ce que Koudak cherche un account manager SIA? Oui, on recrute toujours quand on a un LXT. Hello Théo, comment diversifier ses revenus, boîte de service 3D, sans faire de la formation, LPA 4242, ne diversifie pas tes revenus. C'est vraiment le truc que j'ai compris, c'est à chaque fois que j'essaie de diversifier mes revenus, c'est simplement un aveu de faiblesse, ça montre que tu n'es pas capable de faire grossir ta source de revenus principale. Fais Pareto, fais 20% si tu veux à côté, ou tu fais autre chose, mais tu gagneras beaucoup plus d'argent, tu seras beaucoup plus heureux, je trouve, en poussant le truc encore plus loin. Et j'ai fait l'erreur cette fois de me diversifier, chaque fois j'ai regretté. Donc ne fais pas ça. Utilises-tu encore Notion pour t'organiser? Ouais, Notion, c'est de la balle d'Aroche 77. Les collaborateurs de Kodak sont salariés ou indépendants, demande d'Aroche 77. Ils sont tous salariés. Ils ont été free au début. J'avais 5-6 personnes en free. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2023, monter une agence sociale, c'est toujours une bonne idée? Lucas Sarrazin. Ce qui est une bonne idée, c'est de monter un truc sur lequel tu peux être top 1%. Donc aujourd'hui, c'est juste plus dur d'être top 1% en social ads. Tu vois, ça va te prendre plus de temps, à moins que tu aies une approche révolutionnaire. Et donc non, il n'y a jamais des marchés saturés. Et de toute façon, c'est toujours des mauvaises questions. J'espère que tu ne poses pas cette question en mode j'hésite entre plein de business et je me demande « Ah, celui-là, il y a une exception. Ah non, mais celui-là, ça ne va pas. Et celui-là, ça ne va pas. » Ça, mon meilleur conseil, c'est commence à faire des trucs. Arrête d'essayer de chercher, de regarder une énième vidéo sur le meilleur business à lancer en 2023. Putain, lance un truc. Et après, arrête de perdre ton temps. Tout le temps que tu ne passes pas à faire des trucs, c'est du temps perdu. Ça sert à rien de se lancer dès le démarrage sur le meilleur truc. C'est jamais tu fais jamais des dingueries sur tes premiers mois d'activité, sur ta première année, ni même sur ta première aventure. En fait, quand tu regardes les gens qui ont monté plusieurs boîtes, la seconde, la troisième, la quatrième, la cinquième, elles défonçaient la mère à celle d'avant. Toujours la même chose. Tu as pensé à intégrer une agence de création de contenu pour entrepreneurs chez Kodak, demande Yacine BY. On en a déjà une, c'est Linker, qui fait de la marque personnelle, qui bosse avec le Labo, qui est notre studio de production. Quel serait ton plus grand conseil à celui qui veut entreprendre, Ahmed D du 69? En fait, c'est dur. Ces questions-là, elles sont dures. Pourquoi? C'est parce qu'il manque, il y a des variables qui ne sont pas fixées. Donc, pour y répondre, je suis obligé de me dire, elle est trop large. C'est une question trop large pour que je puisse te donner une... En fait, on dit question con, réponse conne. Ça, c'est une mauvaise question, malheureusement. En fait, il faut fixer plus de variables. Dire, okay, pour entreprendre, à quel âge? Dans quel domaine? Après, enfin, ça veut dire quoi? J'ai déjà monté une boîte. Entreprendre, ça veut dire quoi? Tu veux faire du free? Tu veux faire une start-up? Donc, mon meilleur conseil, c'est d'arrêter de chercher une réponse à cette question. Voilà, je fais du sophisme, mais Ahmed, ça, c'est pour ton bien. Comment se créer un réseau fiable, le monde Corentin Digi? Alors ça, c'est un truc sur lequel j'avais très peur, parce que moi, je suis de naturel un peu introverti. Quand je sortais d'école, je ne savais pas comment réseauter. Je me voyais à des événements networking dans le malaise suprême. En fait, ce qui te permet de créer un réseau fiable, c'est deux choses. C'est d'abord d'être quelqu'un qui fait des trucs stylés, auxquels les gens ont envie de parler. Moi, je n'ai jamais un moment dans ma semaine pour réseauter. Je fais des trucs stylés, il y a une personne qui m'intéresse, je lui envoie un message pour tel ou tel truc, les gens viennent à moi et j'ai fini par avoir un réseau. Donc, commence par faire des trucs stylés, les gens, ça va être beaucoup plus facile, ça va attirer les gens. Et seconde chose, c'est en étant give first. Donc, ça veut dire, quand tu rencontres une personne, tu cherches toujours un truc que tu peux lui apporter et pour que la balance elle soit positive. C'est-à-dire, il t'a rencontré, il est ressorti avec quelque chose. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être rien du tout. Mais toujours se poser cette question-là et c'est hyper agréable en fait de rencontrer des gens comme ça. Thibault Lévesque 02, comment créer du besoin chez nos prospects? Ça n'est pas possible de créer du besoin, Thibault Lévesque. Tu peux susciter de l'intérêt. Tu ne vas jamais créer le besoin pour ton produit chez quelqu'un. En fait, créer le besoin, c'est vraiment un truc de quelqu'un qui a mal compris un cours de marketing. Tu ne peux pas créer un besoin. Tu peux trouver un besoin de quelqu'un et y apporter une très bonne solution. Et souvent, c'est qu'il faut que tu changes ce que tu es en train de faire. Malheureusement. Il y a plus d'un an, tu nous avais dit que tu gagnais 15K par mois. Est-ce que tu te paies plus depuis? Non, je me paye pareil. Je me paye entre 12 et 15. 12 et 16. Ça dépend. Il y a des variables. Qu'est-ce que tu en penses de l'IA pour aider service client à répondre plus vite? J'y connais rien. Je vais toutes les questions sur l'IA. En fait, Brian me demande ce que je pense de son business. Hein. J'imagine que tu fais ça. Je ne vais pas aller checker, mais j'en sais rien. Écoute, frérot. C'est d'ailleurs pas moi qui vais. Mon avis est très peu pertinent là-dessus. J'ai rien à te dire. Je suis pas dans la target market des gens que tu veux le vendre. Donc, non, parlons plutôt à tes clients, ils te disent, ils t'apprendront des feedbacks beaucoup plus intéressants. Ils t'apprendront des choses plus intéressantes que moi. Comment tu parviens-tu à maintenir une cohérence entre les stratégies et les créatives sur les campagnes? Alors là, c'est, j'imagine qu'ils parlent pour mes clients et au sein d'une même marque. Non, mais parce que là, c'est très simple, en fait. C'est une il y a une charte, des chartes graphiques, des plateformes de marque que nous, on a et qu'on fait valider par le client. Donc, pas trop de galère là-dessus. J'espère que c'était ça, ta question. Comment rester concentré sur les choses les plus essentielles qui font avancer le business? Demande Jordan Faupas. Bah, la première chose, c'est en essayant déjà de faire autre chose et se rendre compte que ça ne marche pas. Parce que tu n'apprends dans la vie que par deux choses, soit par ton expérience, soit celle des autres. C'est très très dur au démarrage d'apprendre de celle des autres parce que tu es un petit con quand tu commences. Tu dis, non, mais moi ça va être différent, fais trop que tu es pareil que tout le monde après. Donc, diversifie-toi, fais des choses pas essentielles, mais dis-toi, le meilleur truc, le meilleur conseil que je peux donner par contre là-dessus, c'est de réduire ton échelle temporelle. De te dire, qu'est-ce que je peux faire? Les choses essentielles pour business, c'est un truc qui apporte un résultat ce soir. Et le matin, comment est-ce que ce soir j'ai un résultat différent? Et tu fais ça jusqu'à ce que tu aies besoin de raisonner plus loin à l'échelle de la semaine. Il y a des gens en fait, qui font des petites blagues, et notamment le commentaire d'après, c'est Aurélien, mon ami Aurélien Denunzio. Il sort d'une sieste, le frérot. Je crois, je sais plus ce que j'avais mis comme photo sur la. Je crois que je. Ouais, bon, je n'étais pas très bien coiffé. Quels sont pour toi les red flags lors d'un entretien d'embauche, salarié-employeur? Bonne question. Oui, c'est une incohérence entre ce qu'une personne dit être d'elle-même et ce que ses actions démontrent. Donc, je me méfie beaucoup quand une personne me dit « moi, je suis quelqu'un de très ». C'est-à-dire, ok, hein, bon, soit tu as fait preuve d'énormément d'introspection et tu es très très sûr de ça sur toi-même, soit tu essaies de faire le mec devant moi. Je suis quelqu'un voilà, de très « j'accepte les feedbacks », etc. Et après, tu comprends par A plus B qu'ils faisaient que s'embrouiller. Au détour de l'entretien, tu comprends que voilà, ça n'allait pas du tout avec le manager, qu'en fait, ils n'étaient jamais d'accord dans les visions. Enfin, c'est ça que j'essaie de trouver, moi, c'est des incohérences. Et tout le monde en a, hein, d'ailleurs. Tout le monde en a. Mais il y en a des plus ou moins graves. Donc, j'essaie juste... ne crois pas ce que les gens disent, crois ce qu'ils font. Pour ça, quand tu fais passer un entretien ou que tu passes un entretien, parle toujours de qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as déjà fait dans le passé. Qu'est-ce que tu ferais si... Non, qu'est-ce que tu as déjà fait? Qu'est-ce que tu es humble? Quand est-ce que tu as fait preuve d'un... Oula, d'humblité. D'humble... Putain, je sais pas. D'humilité. Bref. Bon, il y en a beaucoup là, des questions. Je ne peux pas répondre à tout. On va rester sur le ratio d'un tiers, je pense. On termine par une question sur la salle. Vas-tu souvent à la salle une heure ou une grosse session par semaine? Je fais 4 séances, entre 3 et 4 séances par semaine, et je fais 1h30 à chaque fois. Le trajet, ça fait 2 heures, donc j'y suis à 7h, souvent 7h15. Ça fait 1h45 après, ouais, j'habite à côté. Et voilà, j'arrive... à bien tenir ce rythme-là, je fais upper, lower, upper et une petite séance rappel en plus. Voilà. Ok, bon, il y en a vraiment des tonnes. Écoutez les amis, si votre question n'est pas passée dans cet épisode, reposez-la pour les prochains podcasts. Hein. Vous voyez, je réponds quand même à pas mal de questions, mais là, il y en avait beaucoup. Ça va être la fin de cet épisode de Retour Témion, je crois que c'est plus long, 1h37. Ah, peut-être pas. Donc, je vous embrasse, j'espère que ce nouveau format vous plaît. N'hésitez pas à me faire des retours. Et oui, dernière chose, si vous êtes resté jusqu'à là, ne partez pas. Je vais vous mettre un petit sondage sur Spotify. J'ai envie de savoir qui vous êtes vraiment pour pouvoir vous servir du contenu de qualité. Est-ce que vous êtes un entrepreneur? Est-ce que vous êtes un freelance? Est-ce que vous êtes un CDI qui veut se lancer entrepreneuriat? Est-ce que vous travaillez dans l'e-commerce? Je vais vous poser une petite question. Je la poserai sur Instagram et je la poserai sur Spotify. Il y a une petite fonctionnalité question-réponse, sondage. Je vous embrasse. Merci beaucoup d'avoir passé tout ce temps avec moi. Vous êtes des frères et des sœurs. Tchou tchou, et rendez-vous la semaine prochaine, peut-être.